Écoutez, je vous propose, on va commencer, hein, les personnes, s'il y a d'autres personnes qui viennent, nous rejoindront au fur et à mesure. On va profiter qu'on est, je dirais, en plus petit nombre aujourd'hui, donc vraiment, là, n'hésitez pas à intervenir dès qu'il y a quoi que ce soit qui paraît peu clair ou qui semble nécessiter quelques explications ou qui quelques remarques de votre part. S'il y a des personnes qui ne sont pas là la prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez me laisser, ce que déjà Mme Georgin a fait, votre nom et ou un numéro de téléphone ou une adresse ou quoi que ce soit, comme ça si je fais d'autres choses, la prochaine fois sera la dernière de ce cycle de neuf conférences. Vu que ce sera la dernière fois, comme ça si je fais d'autres choses, que ce soit dans le cadre de la mairie de Saint-Mandé ou bien alors dans la région, je vous préviendrai. Hein. Et donc je vous remercie d'être venu à toutes ces sessions depuis le début ou à de nombreuses fois. Aujourd'hui, on va terminer notre affaire avec les 12 liens causaux. Ça nous aura occupé quand même 3 fois, donc c'est déjà un gros système, hein, mais c'est normal parce que c'est quand même un système à 12, à 12 termes, à 12 membres, et c'est un système qui... comment dirais-je ? Bonjour madame, je vous en prie. Et c'est un système qui, vu qu'il y a différents membres, c'est un système qui est dynamique, c'est-à-dire où à chaque fois, il y a quand même, c'est pas simplement une énumération de 12 termes, c'est un système de comment faire, donc il n'y a pas de... Donc c'est un système à 12 termes et où chacun d'entre eux entraîne le terme suivant. Alors, je vais les redire, si vous voulez, pour rafraîchir un peu les choses, et peut-être on aura l'occasion de les re-expliciter d'une autre manière aujourd'hui. Donc ce sont ces systèmes avec donc ça commence par l'obscur, les agissements, la conscience, les noms et formes, les six lieux, les contacts, les perceptions, les attachements, l'appropriation, l'existence, la vie et la mort. Alors c'est en fait ce système, il faut le voir comme une sorte d'éternel retour, c'est un système qui est dynamique. Et vu qu'il est dynamique, cela signifie qu'il fonctionne d'un point de vue temporel, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans le temps. Alors, dans le bouddhisme, c'est qu'on a toujours l'habitude de dire qu'il y a les trois ceci, les quatre cela, enfin à chaque fois, on dénombre les choses, même si on n'attache pas au nombre, en quelque sorte, une valeur symbolique ou quoi que ce soit, mais on les nomme parce qu'on essaie de voir clairement de quoi il s'agit, et une fois que les choses sont vues clairement, on peut dire combien il y en a, combien il y a de termes. Alors, dynamique, ça signifie qu'il est actif dans les trois phases. Alors, les trois phases du temps, c'est très simple, c'est le passé, le présent et le futur. Et nous allons voir justement de quelle manière cette chose-là, ce système en 12 termes, fonctionne dans le, comment dire, dans cette espèce de continuum qui fait que ce qui est présent devient du passé et que ce qui est futur devient du présent. Alors, la manière dont ça marche, c'est ce qui apparaît sur le diagramme que j'ai écrit ici. Et on va voir de quelle manière on peut comprendre cela. Alors, l'obscur, vous vous rappelez, on avait dit que c'était cette espèce de, comment dirais-je, d'ignorance fondamentale, on pourrait presque dire d'amnésie fondamentale, c'est cette chose qui est de l'ordre du passé, mais qui est impénétrable, mais qui dans le passé a été la, comment dirais-je, a généré des actes, dans le deuxième terme c'est des agissements, c'est des actes, c'est quelque chose qui fait que on est quand même obligé d'agir sans cesse, et on peut dire qu'on n'est jamais en connaissance de cause. Mais ce qu'il reste du passé, ce sont effectivement des actes qui ont été effectués, alors qu'on n'était pas en connaissance de cause jamais, parce qu'on est toujours forcé d'agir, on est toujours forcé de réagir à la vie. Par exemple, j'avais cité un extrait d'un texte de Nichiren, qui est un moine japonais du XIIIe siècle, dans lequel il disait l'obscur, alors je ne connais plus exactement les termes, je vais peut-être le relire pour avoir exactement la terminologie, et dans lequel il disait que l'obscur, c'est ce qui fait qu'un garçon, par exemple, provoque la colère de son père, mais l'amour de sa mère. C'est pas exactement ce terme-là, je vous donne la citation parfaite. L'obscur se réfère donc à l'apparition des troubles dus au désir amoureux d'autrefois. Un garçon cause la colère de son père et éveille l'amour de sa mère, alors qu'une fille, elle, cause la colère de sa mère et éveille l'amour de son père. Donc là, on voit que l'obscur est quelque chose qui donne des sortes de, comment dirais-je, d'inclinaisons vis-à-vis desquelles le sujet ne réfléchit pas, en quelque sorte. Oui.
Est-ce que c'est ce que dans notre région du globe,
oui,
on appelle le complexe de Dieu?
Comment dirais-je, dans ce cas-là, dans ce qui est dit ici, on en est très proche. Hein, dans ce cas-là. Mais je pense qu'à mon avis, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe fait partie de l'obscur. Mais l'obscur contient également beaucoup d'autres, est moteur également de beaucoup d'autres actes qui ne sont pas seulement de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler le complexe d'Oedipe. Mais c'est vrai que quand on lit la citation qui est ici, un garçon cause la colère de son père et éveille l'amour de sa mère, alors qu'une fille, elle, cause la colère de sa mère et éveille l'amour de son père. Quand on lit purement cette citation, c'est vrai qu'ici, on ne peut pas s'empêcher de penser au complexe d'Oedipe. En fait, ça, c'est extrait d'un livre qui s'appelle L'Abhidharma Kosasastra, et qui est un livre qui date à peu près du IIIe siècle de notre ère, pour avoir une idée. Et donc, déjà dans cette littérature bouddhique du IIIe siècle de notre ère, des choses qu'on pourrait dire ici, qui pourraient effectivement renvoyer au complexe d'Oedipe, d'une certaine manière, sont analysées. Mais je pense quand même que la différence, c'est que dans le bouddhisme, et aussi dans certaines des religions anciennes de l'Inde, vous avez une mythologie, un ensemble de mythes qui sont absolument énormes. Et tous sont des choses qui, je ne sais pas comment dire, mais enfin, qui vraiment requièrent l'imagination, qui requièrent la pensée. Il n'y a pas, par exemple, dans le bouddhisme, on l'a vu notamment quand on a parlé du désir, une sorte de désir qui serait primordial. Il y a, on distingue par exemple, pour rappeler, on a vu qu'il y a le... ce qui est vraiment de l'ordre du désir, on a vu avec les cinq désirs, parmi lesquels justement figure à la fois l'appétit, la sexualité, enfin un ensemble de désirs qui sont liés à la vie elle-même, le sommeil également, et également la puissance, la renommée. Donc ça, c'était le premier groupe d'attachement. Le deuxième, c'est ce qui est lié à la vie elle-même, c'est-à-dire à la continuation de la vie. C'est-à-dire que on pourrait davantage lier ça. Bonsoir. On pourrait davantage lier ça, par exemple. Tu es près du tableau. C'est le prof des bons élèves. On pourrait lier ça à tout ce qui est le domaine de l'instinct de survie, par exemple. Ou ce qui fait qu'on veut vivre encore davantage. Et la troisième forme d'attachement est tout ce qui est lié à l'anéantissement et à la destruction. Donc on voit bien que pour le bouddhisme, il n'y a pas en quelque sorte une sorte de désir qui serait fondamental et autour duquel tout ensuite se déclinerait. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de désirs. Et le problème avec cet ensemble de désirs, c'est qu'ils sont, en général, contradictoires et antagonistes. Donc, ça c'était pour revenir sur l'obscur, donc, qui était le premier terme de cette douze. Donc, l'obscur, dans le temps, a causé des actes. Donc il y a des actes qui ont été effectués. Alors ça, justement, dans ce continuum des trois phases du temps, c'est-à-dire passé, présent, futur, c'est jugé comme étant deux causes du passé. D'accord ? Ensuite, ces deux causes qui existent dans le passé vont amener des effets dans le présent. Et donc les effets dans le présent, on peut dire que c'est ce que l'on constate, c'est ce qui est donné, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, il y a, on l'avait vu en premier, ça donne de la conscience, c'est-à-dire que pour qu'il y ait du présent, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit conscient de quelque chose. Sans ça, il n'y a pas de présent, il n'y a rien. D'accord ? Donc ça va donner dans le présent, il y a de la conscience. La conscience, elle va faire ce que je vous avais dit la dernière fois, parce que bon, peut-être un petit peu comme une boutade, mais elle va créer le monde. C'est-à-dire qu'en face de la conscience, il va y avoir de l'audible, du visuel, du gustatif, etc. C'est-à-dire que le monde, du coup, ce que nous appelons le monde, va nous arriver par différents canaux. Ces canaux, c'est ce qu'on appelle les six seuils ou les six entrées. Donc ce sont nos sens visuels, nos sens auditifs, gustatifs, tactiles, et le sens qu'il voit à l'intérieur. C'est, par exemple, je pense à quelqu'un, son visage m'apparaît, même la personne n'est pas là physiquement. Et donc, il y a une sorte d'œil à l'intérieur qui voit, ou j'entends le son de sa voix. Donc il y a une sorte d'oreille interne, si vous voulez. Et donc vous vous rappelez que je vous avais dit la dernière fois que l'attention, on est en train de, comment dirais-je, de couper très très fin dans le présent. Parce que nous, souvent, simplement, dans le fait d'être vivant, on ne fait pas la différence entre ces différentes opérations. Il y a, on dit, c'est le phénomène perceptif. Alors que là, quand même, le bouddhisme, donc, dès l'origine du bouddhisme, avait coupé, avait bien compris le phénomène du vivant, le phénomène perceptif, et donc, on a conscience. Ensuite, de quoi il y a du visuel, il y a de l'auditif, il y a tout ça. Enfin, il y a le monde qui existe. Le monde est possible parce que nous avons des canaux qui permettent de le saisir, par exemple l'ouïe, par exemple la vue, les sons qui sont en dessous de ce que je peux entendre, ils n'existent pas pour moi, je ne les entends pas, les couleurs qui vont au-delà du spectre que l'on peut voir, le spectre de couleurs que l'on peut voir, l'infrarouge, des choses comme ça, je ne vois pas ces couleurs. Et pour ce qui me parvient donc par les feuilles, par les entrées qui sont les miennes, il y a du contact qui se produit. Vous rappelez, le contact, c'est lorsqu'on avait dit, par exemple, c'est le moment où on ne sait pas encore, je ne sais plus, que le feu est chaud. Il y a contact entre la flamme, le ton et mon doigt. Mais je n'ai pas l'impression d'être encore brûlé. Il n'y a pas encore le ressentiment, parce qu'il faut qu'il y ait perception pour ça. Ensuite de quoi, après le contact, vient la perception. Alors tout ça, si vous voulez, c'est considéré comme un effet. C'est-à-dire ça, vous prenez ça en bloc, mais on voit bien que ce sont des choses qui sont de la même origine. De la même origine, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans un même continuum, parce que, en fait, tout ça, on pourrait dire, c'est partant de la conscience, l'ensemble de l'acte perceptif, jusqu'à son accomplissement. C'est-à-dire que quand j'arrive à la perception, ben là, je me rends compte que le feu, c'est chaud. Donc, je trouve qu'il y avait quand même déjà, non seulement déjà, parce que je pense même pas que maintenant, on serait beaucoup plus loin que cela, même si on peut davantage expliquer à travers, je ne sais pas moi, la neurologie ou des choses comme ça, mais les bouddhistes avaient eu complètement l'intuition de ces choses. Donc c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'il y a l'idée qu'il y a des forces obscures qui existent, qui ont eu lieu dans le passé, qui ont créé des actes, et du coup, il y a de la conscience et de la perception maintenant. Et donc, il y a une cause du passé, il y a un effet dans le présent, ça c'est donné. C'est-à-dire que ça, je veux dire, sans rien faire, j'ai tout ça. Et à partir de là, il se passe autre chose, c'est qu'une fois qu'il y a eu de la perception, il va y avoir une réaction sous la forme d'un acte de la part du sujet. Parce que, vous vous rappelez, on avait vu que cette perception, elle pouvait être... On avait dit que le système des trois et des cinq perceptions, enfin le système des trois perceptions comprend déjà le système des cinq perceptions, c'est-à-dire qu'elle peut être douloureuse, elle peut être heureuse ou elle peut être indifférente. Et donc, immédiatement, il y a de la perception et il va y avoir, vis-à-vis des perceptions qui me semblent agréables, il va y avoir de l'attachement. En sens inverse, vis-à-vis de celles qui me semblent désagréables, nuisibles, ou quoi que ce soit, il va y avoir de la répulsion. Et vis-à-vis de celles qui me semblent ni l'un ni l'autre, celles qui me semblent indifférentes, il va y avoir du manque d'attention. Une sorte de... dans le livre, on dit que c'est pratiquement une sorte de bêtise un peu, parce que vis-à-vis, je ne remarque pas, je suis uniquement vu, mu, par ce qui me semble ou agréable ou détestable. C'est-à-dire que je ne réagis qu'aux extrêmes. Et le reste, souvent, ça vaut la peine d'y attacher de l'attention. Mais il y a un phénomène qui est lié au désir qui se passe et qui fait que je veux m'attacher à ce qui me semble agréable et fuir ce qui semble désagréable. Ensuite de quoi, donc cet attachement, c'est-à-dire que je reveux de ce qui m'a semblé agréable, et finalement dans une procédure qui est un petit peu mécanique. La vie fonctionne ainsi. C'est-à-dire que c'est finalement quelque chose qui m'a semblé agréable peut-être dans un certain contexte, peut-être quand j'étais tout petit, ou des choses comme ça, mais du coup on en revient encore, même si ce n'est plus approprié. Et pareil pour ce qui m'a semblé détestable, il y a peut-être des choses qui m'ont semblé dangereuses, détestables, peut-être parce que je n'étais pas assez fort pour les supporter, ou parce que je ne savais pas quoi en faire, mais vis-à-vis de tout ça, j'ai toujours un peu une forme de répulsion. Tant qu'il n'y a pas eu un travail réflexif. Mais si on laisse faire les choses, et pour, je pense, 99% à la manière dont on fonctionne, c'est on laisse faire les choses. Et donc, le sujet, c'est goût, je ne sais pas moi, c'est goût artistique, politique, tout ce que vous voulez, est quand même déterminé dans cette, à la base par une, comment dirais-je, une sorte d'addition de différents goûts. C'est-à-dire que ça va être l'individu fonctionnant comme un tout, ça va être un certain nombre d'expériences qui ont semblé agréables, nuisibles, comme ça qui se succèdent depuis un passé finalement très ancien, qui fait que l'individu va avoir des choix qui parfois lui sembleront justifiés, mais qui sont liés finalement qu'à son propre passé, dans beaucoup de cas. Et donc, l'attachement va créer l'appropriation. Et c'est-à-dire que parce que certaines choses m'ont semblé agréables, je vais vouloir certaines choses, certains êtres, certaines situations, etc., je vais vouloir les avoir, je vais vouloir me les approprier. Et, chose étonnante, ce phénomène de l'appropriation va donner, et donc des différentes, je crois qu'on peut dire, stratégies que le sujet va faire pour s'approprier des choses, va donner au sujet le sentiment d'exister. C'est le de l'existence. Parce que dans ce phénomène d'appropriation, là on voit l'existence c'est quoi? C'est créer des causes dans le présent. Parce que jusqu'à ici, tant qu'on était jusqu'à la perception, on est dans le domaine de ce qui est donné. Il y a eu des causes qui ont été effectuées dans le passé et il y a des effets obligatoires qui arrivent dans le présent. Donc ça, je veux dire, il n'y a aucune notion de, on pourrait dire, de liberté là-dedans. Là, on est dans un strict déterminisme. À l'inverse, dès le moment où je crée, on pourrait dire, l'attachement est un premier acte dans le présent. Dès le moment, et ensuite, quand j'en arrive pour m'approprier différentes choses, à avoir des stratégies, à avoir des pensées peut-être plus compliquées que cet automatisme dont on parlait précédemment, dès le moment où il y a volonté d'appropriation, il y a de l'existence, et en fait, l'existence résume ces trois membres-là qui sont des causes dans le présent. C'est-à-dire que là, on est dans le déterminisme, il y a des causes dans le passé et il y a des effets dans le présent qu'on subit, mais à l'inverse, dès lors que l'on crée des causes dans le présent, en fait, on va créer les effets qui auront lieu dans le futur. Donc, s'il y a un endroit où les choses dans le bouddhisme peuvent se modifier, c'est au niveau de la création des causes dans le présent. C'est pour ça que pour revenir à ce qu'avait été le premier cours, ici, dans ce qu'on appelle le phénomène du karman, ou qu'on appelle karma ici, qui vient surtout de la conception, je dirais plus hindouiste que bouddhiste, hein, il y a l'idée que c'est une sorte de destinée inexorable. Le bouddhisme ne prend pas les choses comme ça. Pour le bouddhisme, le karma, c'est-à-dire les actes, ne sont pas une destinée inexorable, parce que, certes, il y a des taxes qui existent dans le passé et qui vont donner des effets dans le présent et dans le futur, mais il y a à chaque instant, je suis créateur d'actes. Et donc, si à ce moment-là, je peux, comment dirais-je, arrêter un petit peu les choses, réfléchir et voir la qualité des actes que je veux créer, alors je peux construire un autre futur que le futur qui serait venu automatiquement si j'avais laissé la machine infernale agir. Et donc, s'il y a quelque chose qui doit se passer, c'est au niveau de la création d'actes dans le présent. Et c'est là qu'en fait, il ne faut pas laisser en roue libre. Je vous avais dit aussi la fois dernière que c'est quelque chose qui est important, c'est que cette notion d'appropriation précède l'existence. Ça précède l'existence, c'est le sentiment d'existence. L'existence, ça fait déjà un sujet vivant à côté de ça. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, qui est propre au bouddhisme. Certainement, je n'ai jamais vu ça avant, c'est-à-dire que le mien précède le moi. C'est quelque chose qui est étonnant. C'est une fois que je possède des choses que j'ai l'impression d'exister, des choses, des êtres, des situations, que je veux les garder.
L'avoir avant l'être ?
Oui. L'avoir crée l'être. C'est pas l'inverse. Au même titre que c'est la conscience qui crée le monde. Non pas que c'est le contraire. Oui. Alors ça, c'est une grande question. Oui.
Est-ce qu'on n'est pas dans le système de quelqu'un a créé la poule?
Oui. Alors ça, on va y venir tout à l'heure, parce que là, si vous voulez, en fait, je vous l'explique d'un point de vue, je dirais, logique et pédagogique. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a effectivement d'autres possibilités d'explication de ce système et que on va arriver peut-être à des causalités un petit peu inversées et qu'on ne saura plus qu'est-ce qui a créé quoi.
Qu'est-ce qui compte sont les conséquences de notre mental, c'est-à-dire la priorité qu'on met à un moment donné, qu'est-ce qui est plus important de la foule, le reste.
La décision, on pourrait dire, la décision, la volonté de s'accomplir dans le présent, oui. Et l'existence va créer de la vie, c'est-à-dire que va créer que la vie va devoir continuer, sous une forme ou sous une autre. Et la vie continuant, la vie également prendra sa fin. Et donc, ça, ce sont des causes dans le présent qui vont entraîner donc l'effet de vie et mort dans le futur. Vous vous rappelez pour vie, je vous avais dit, c'est quand même le même idéogramme, je traduis ici par vie, mais c'est également le même, je veux dire, naissance. Parce que ce qui vit est cela qui est né. Et donc, on peut aussi dire naissance ici. C'est-à-dire que tant que la série d'actes n'est pas épuisée, il y a renaissance. Et s'il y a renaissance, il y a mort. Et donc, le système donc, fonctionne avec un premier continuum de série cause-effet, auquel on ne peut pas grand-chose, parce que la cause se situe dans le passé. Et un deuxième continuum qui est une autre série cause-effet, mais où la cause est présente et l'effet est futur. Alors, il faudrait, mais c'est presque impossible à imaginer, tenter d'imaginer ce système à chaque seconde. C'est-à-dire, donc, oui, bon, là, ça vient assez fou, hein, comme truc. Hein. Mais c'est une sorte de kaléidoscope du vivant. Parce que ce qui est du présent, maintenant, dans une seconde, va être du passé. Ce qui était le futur immédiat va devenir mon présent. Donc en fait, il faudrait faire une sorte de décalage de ce système. Parce que la vie dont on parle, la naissance dont on parle là, on peut dire que c'est peut-être une naissance ou une vie dans une future existence, mais c'est aussi le fait que, théoriquement, je suis encore vivant dans une seconde. C'est-à-dire que dans une seconde, il y aura encore tout ça. J'aurai encore de la conscience, il y aura un monde qui sera un peu différent du monde maintenant, le monde qui existera dans une seconde. J'aurai également un appareil perceptif, j'aurai également un contact avec, dans une seconde avec le monde qui existera dans une seconde. Et tout ça, à chaque fois, ça se modifie. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est extrêmement, très dynamique et très, presque scientifique. Hein. Comment ?
On est dans le temps.
Oui, c'est-à-dire que finalement, cette chose, on peut dire presque, explique le phénomène du temps pour le sujet. Donc, c'est un sacré système. Hein. En fait, si vous voulez, je vous en parlerai aussi tout à l'heure d'autres manières de ce système, mais là, il faut bien comprendre que c'est le... on a finalement, depuis le début, j'ai abordé différents points. Qu'est-ce que c'est que le dharma, qu'est-ce que c'est que des choses comme ça. On avait fait en détail les quatre vérités qui nous avaient occupé pendant deux sessions, et je vous avais dit que c'était l'enseignement qui était le début du bouddhisme, c'est fait pour que le bouddhisme soit compréhensible, même par des personnes qui n'avaient jamais entendu parler auparavant. Et là, c'est le premier système vraiment bouddhique que l'on étudie et dans lequel on va dans le détail. Et là, on voit qu'on arrive à quelque chose qui est profond, qui est extrêmement dynamique. Et dans le bouddhisme, le phénomène du vivant est quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement bien appréhendé, extrêmement bien disséqué, à des fins d'action. D'action et de connaissance. Donc, on a quand même un système qui est assez énorme si on reporte ce tableau à 5 secondes. Une autre chose aussi que... que je voudrais vous dire, enfin pas déjà un peu, on avait vu au niveau de toute l'affaire avec la, comment dirais-je, avec la conscience, avec les différents organes sensoriels, avec le contact avec le monde, avec la perception. En fait, au début du bouddhisme, il y a ce qu'on appelle la triple harmonie. En chinois, sans moi en japonais, dans lequel la triple harmonie, c'est que ce que nous appelons le monde, c'est quelque chose, un tout, qui, si on la première, comment dirais-je, décomposition qu'on puisse en faire, c'est qu'il faut qu'il y ait de la conscience, ce qu'on appelle des racines, qui sont les organes perceptifs du monde. Comme les racines d'un arbre, qu'est-ce qui lui permet de s'alimenter en sortant de l'arbre ou en allant au sol, et qu'il y ait un lieu, hein, ou des lieux. Hein. C'est-à-dire que la perception qu'on a du monde, c'est à chaque fois, c'est triple chose à la fois. C'est-à-dire qu'il y a de la conscience, il y a quelque chose qui permet d'appréhender autre chose, et il y a quelque chose qui est appréhendé. Et finalement, l'existence, à chaque instant, ne va pas plus loin que cela, on peut dire. On ne peut pas imaginer, par exemple, ce système si on retirait n'importe lequel de ses membres. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression que le monde nous préexiste. Il y avait le monde avant moi. Il y aura le monde après moi. Le pays où je vis existait avant que je sois là, je suppose. Mais, le fait, je suppose, c'est, en fait, c'est quelque chose qui est logique et qui vient du fort commun. Mais, ça peut paraître un peu absurde à dire, mais j'ai aucune idée réelle, vécue, par exemple, du lieu où nous sommes avant que j'existe. C'est quelque chose qui est étonnant, c'est que tout ce que je sais, par exemple, du pays dans lequel je vis, de la ville où je suis, ou de quelques lieux que ce soit, c'est ce que j'en sais de par mon expérience. Pour moi, ça n'existera pas sans moi. C'est quelque chose qui est bizarre, hein, comme on ne pense pas comme ça. C'est vrai que logiquement, c'est un peu... ça paraît presque absurde de penser comme ça. Mais on ne peut pas imaginer ce que ce serait dans le sens, par exemple, qu'une conscience, un appareil perceptif, et rien à percevoir, il n'y a rien qui est perçu. On ne peut pas imaginer. Vous pouvez retirer chacun de ces termes, et vous ne pouvez rien imaginer en quelque sorte de moins que cette triple harmonie. Alors c'est une triple harmonie parce que ça fonctionne bien. C'est le phénomène même du vivant. Et en fait, si vous voulez, la réflexion sur la triple harmonie, c'est quelque chose qui a occupé les bouddhistes globalement pendant environ 1000 ans. Oui.
On peut réfléchir en disant la conscience est le connaisseur, les racines c'est la connaissance, Et le lieu, les lieux, c'est le connu. Ce qui peut être connu. Rien ne peut être connu sans connaissance.
Oui.
Ni sans connaissance.
Oui. Tout à fait.
La connaissance, c'est le connu à travers le connaisseur.
Oui. Oui. C'est pour ça que c'est une triple harmonie. C'est-à-dire que je peux choisir de décliner ça à travers n'importe lequel de ces trois termes auxquels s'enchaînent les deux autres. Et en fait, ça fonctionne aussi comme ça parce que nous, on dit que c'est trois choses, alors qu'en fait, c'est le phénomène du vivant. C'est le phénomène du vivant par lui-même. Et comme je l'ai dit, ça c'est quelque chose de triple harmonie qui va occuper les bouddhistes pendant environ 1000 ans. Ce n'est qu'au bout de 1000 ans qu'ils auront fait à peu près le tour de cette chose, hein, donc il faut quand même du temps, hein, et pourtant ce n'était pas des gens spécialement longs hein, au niveau de la réflexion. Et après, donc ça peut être dans une école chinoise qui s'appelle l'école Tiantai, qui est vraiment d'une montagne en Chine, dans le sud de la Chine, qui est le mont Tiantai. Et c'est l'un des sages de cette école, qui s'appelle Zheyi, ça s'écrit comme ça, qui, le premier, arrivera plus loin que ça, et qui, lui, analysera de manière encore plus fine ce qui se passe dans la une pensée momentanée, de quoi elle est constituée. Et donc, il ira un petit peu plus loin que ça, c'est que simplement cette expérience, on pourrait dire, presque perceptive, parce que, lui, il se rendra compte que, comment dirais-je, au niveau de la personne elle-même, il y a quelque chose qui fonctionne, mais ça n'existe pas une personne sans autre personne. Et donc, si on veut avoir un système global, il faut avoir en quelque sorte non seulement la personne elle-même, mais toutes les personnes, et la représentation dans chacune des personnes de ce que ça signifie, le fait que les autres êtres humains soient là, avec les capacités qui sont les leurs. Et donc là, le système va se démultiplier dans une sorte de progression mathématique, et donnera un système qui s'appelle la une pensée 3000. On garde toujours le chiffre 3, et donc notre chiffre 3 qu'il y avait ici, on va le multiplier par 1000 et l'opposer à la une pensée. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce système maintenant, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, mais vous savez que c'est une première, comment dirais-je, évolution qui est dans la pensée bouddhique, c'est que pendant à peu près 1000 ans, on a fonctionné avec ça. Donc ça fait, et 1000 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de portes sur le rang bouddhiste, et des porteurs très importants.
Et avant les 12e couteaux.
Comment ?
Avant la conceptualisation des 12e couteaux.
Si, les 12e couteaux existent depuis l'origine. Oui. Les 12e couteaux, mais ça on pourrait dire que ça c'est une sorte de système minimal. Parce que les 12e couteaux, eux, ils expliquent d'un point de vue dynamique la vie, la souffrance, la mort, etc., tout ça. Là, c'est, là on est, ça se passe en une seconde. J'ai l'impression que le monde existe, pourquoi ? Indépendamment du fait que je ressente de la joie, de la souffrance, que j'ai des projets, que tout ça. Alors que dans les 12e couteaux, les projets que j'ai, la joie, la souffrance que je ressens, etc., c'est pris en compte. Là, c'est simplement pourquoi est-ce que, à un moment donné, je peux dire je peux dire il y a le monde, je peux dire il y a moi, je peux dire tout ça. Il faut qu'il y ait ça. Sans ça, je peux rien dire. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de langue, il n'y a rien. Et donc, cette espèce de... Je pense que c'est important, en fait, vu qu'on n'arrive pas, l'expérience du vivant fait qu'on n'arrive pas à dire ce que c'est que la vie. D'accord ? C'est pour ça que le mot vide, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Enfin, il y a des définitions dans le dictionnaire. Mais le vivant a toutes les peines du monde à dire c'est quoi la vie ? Et pourtant, on est vivant, mais au même titre que, je ne sais pas moi, qu'un insecte, une paramécie, un animal, une plante sont vivants. Alors, le bouddhisme dit, ok, on n'arrive pas à dire ce que c'est que la vie, c'est pas un immense problème, on va dire en quelque sorte qu'est-ce qui est minimum. C'est-à-dire qu'est-ce que, en dessous de quoi, il n'y a plus d'expérience du vivant. Et on arrive à cette triple harmonie. Alors attention, oui. Ça c'est vrai pour ce qu'on appelle dans le bouddhisme ce qui est émotionnel. Parce qu'il y a le monde de l'émotionnel et il y a le monde de l'apathique. Et par exemple, une plante, enfin je suppose que tu fais une plante, hein, mais je suppose qu'une plante ressortit du monde de l'apathique. Mais il y a quand même, ça peut pas être, je veux dire, ça peut être amoindri vis-à-vis de l'idée qu'on en a chez l'homme, Mais ça ne peut pas être zéro.
Les plantes ont une conscience, parce qu'elles se modifient avec l'ambiance.
Oui, c'est pour ça que je dis, ça ne peut pas être complètement réduit à zéro. Je pense que selon les espèces, il peut y avoir plus ou moins de conscience, mais il ne peut pas y avoir zéro conscience. Ou alors, on sort du domaine du vivant, et donc là, on est au niveau peut-être d'une pierre, ou je ne sais pas. Mais, le fait qu'on en parle comme ça, déjà, rend le fait de l'apport que le bouddhisme chinois a fait à la personne de Chöni et des autres penseurs de cette école ont amené, c'est qu'effectivement, d'un coup, on se dit, les choses sont comme ça pour moi, mais je suppose que pour un animal, c'est différent, pour une plante, c'est peut-être différent. Et donc, il va y avoir l'idée que l'animal existe, et la représentation que j'ai de l'animal ou de ce qu'il peut penser existe aussi en moi. Et donc, on voit comment on arrive dans un phénomène démultiplicateur. C'était une aparté, c'est pas pour dire ça, au moins ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, hein. C'est tout ce qui est harmonie. Parce que ça a permis aux bouddhistes de faire fonctionner leur système pendant 10 siècles. Donc, voilà notre affaire avec ces 12 liens causaux. Là, on voit peut-être mieux la manière dont ça fonctionne. C'est un, comment dirais-je, c'est un fonctionnement qui est dynamique et c'est présenté comme ça déjà dans le cadre de, comment dirais-je, une formation déjà assez fouillée. Et alors, chose étonnante, c'est que j'ai lu souvent des livres de spécialistes, même de très très bon niveau, hein, du bouddhisme indien, et ça, c'est quelque chose qui est dans les sources qui sont les leurs, qui ne semble pas évident. Par exemple, quelqu'un comme Guy Bugot, dont j'ai mentionné les livres, qui est vraiment un grand spécialiste et quelqu'un de très intelligent, et ben, lui, Arnaud, il sort ça en disant que c'est des personnes qui lui ont dit ça, mais après avoir vraiment longtemps étudié. Alors que quand on apprend, comme je l'ai fait par exemple moi, le bouddhisme à travers les sources chinoises et japonaises, c'est quelque chose qui est dit dès le moment où on étudie un peu sérieusement les 12 liens causaux. C'est pas du tout un truc, c'est un système qui existe, on trouve ça dans beaucoup de bouquins, etc. Alors que les gens qui partent que des sources indiennes, c'est quelque chose en général qu'ils connaissent mal, et quand ils le connaissent, ils trouvent ça extrêmement éclairant. Parce que c'est vrai, si vous voulez, que cette présentation éclaire bien le système, je trouve. Le fait de rattacher les choses en deux séries de causes-effets, ça permet quand même que le système fonctionne d'une manière qui est, je trouve, beaucoup plus facile à se représenter. Parce qu'effectivement, on crée des sous-catégories. Je ne sais pas si ça paraît un petit peu complexe ou un peu difficile, non ou... Alors, on va peut-être un peu le voir plus en détail. Et pour mieux comprendre cette affaire, c'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même dans le bouddhisme que ce cycle est un cycle qui est douloureux, qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il faut arriver, parce que justement c'est un cycle où chaque terme entraîne le terme suivant. Et donc le fait que l'on soit lié à quelque chose où il y a une certaine forme de mécanicité automatique comme cela, au contraire, ce vers quoi il faut aller, c'est plus de liberté. Il faut se libérer de cela. Tout ce cycle. Et ce qu'on pense, c'est que le seul fait de réfléchir sur le système, c'est-à-dire de ne plus le vivre d'une manière complètement passive, permet de, au fur et à mesure, de s'en libérer. La libération de ce système est quelque chose qui est tout à fait progressif.
C'est une sorte de déterminisme,
là. Oui, mais de déterminisme, comment dirais-je, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vu que c'est quand même dans le temps, on compte en quelque sorte chaque seconde. Que le déterminisme pur, ce serait que vu qu'il y a eu telle chose dans le passé, donc il doit y avoir telle chose dans l'avenir, c'est fini. Là, tant qu'il y a des causes, alors jusqu'ici, on pourrait dire des causes dans le passé, des effets dans le présent, ça c'est le déterminisme. Par contre, le fait que je crée des causes dans le présent et que donc du coup je modifie le futur ou je crée le futur, là on sort quand même un peu du déterminisme. Non, ça n'a pas l'air de... Juste ici, on pourrait dire que c'est déterminisme. Alors, sortir de cette affaire pour résoudre cette corbeillette, cette affaire nous amène quand même jusqu'à la mort. On dit que, en fait, c'est très simple cette affaire, c'est-à-dire qu'il suffirait d'enlever le premier terme pour que le deuxième n'existe pas. Si le deuxième n'existe pas, le troisième n'existe pas, le quatrième n'existe pas, etc. Et donc c'est l'affaire c'est l'effet domino à l'envers en quelque sorte, et qui fait que si l'on peut arriver à jouer sur le premier terme, au fur et à mesure, les autres perdent de leur efficacité. Si l'on peut arriver à avoir une conception globale du système, le système perd de son efficacité. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée que ce système, qui est quand même un système, on l'a vu, enfin, qu'on avait dit par exemple la première vérité dans les quatre vérités, c'est l'université de la douleur, est quand même un système qui va à la mort, qui va par que l'on ne comprend pas ce qui se passe, à toutes sortes de choses qui sont quand même d'ordre assez douloureux. Et donc, le fait de prendre conscience du système, le fait de pouvoir jouer sur le premier terme, fait que le système, au fur et à mesure, perd de son efficacité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'extinction à l'origine. C'est-à-dire que si je veux faire que l'obscur soit un peu moins obscur, au fur et à mesure, le système devient plus, moins automatique, moins efficace dans ce...
Les savants, par leur découverte, ont prolongé la vie.
Mais comme je dis, si on veut... Mais là, on est quand même à un niveau qui, à mon avis, est complètement individuel. On a vu l'obscur, c'est ce qui fait, je ne vois plus la phrase, mais qu'un garçon éveille la colère de son père et, et déclenche l'amour de sa mère. Je peux être savant, même extrêmement savant, et je peux ressentir plus de colère via une réflexion que fera mon garçon que si ça avait été ma fille qui fait une réflexion. Donc je crois que c'est pas la connaissance, si vous voulez. En fait, pour le bouddhisme, c'est dès le moment où on marque un temps d'arrêt. Il y a une pratique dans le bouddhisme qui s'appelle l'arrêt et examen, c'est-à-dire que tout défile, et à un moment donné, on dit « ça va bien ». Et on dit « ok, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis assis, je fais quoi quand je suis assis ? Je suis en train de marcher ». On arrête la chose, on arrête le défilement des pensées. On peut prendre une distanciation vis-à-vis des pensées. D'ailleurs, c'est un exercice dont on parle souvent dans le bouddhisme. On dit, considère les pensées comme tu es, assis en haut d'une montagne ou d'une colline, et tu vois les nuages qui passent. Et bien, chaque pensée, tu la regardes passer comme un nuage. L'esprit produit de la pensée, au même titre que le foie produit un certain nombre de corps chimiques qui servent, au même titre que différentes choses en nous produisent différentes choses, et nous, on s'identifie à l'esprit. Alors, on dit, mais pour un moment, on débranche un peu le pilote automatique et on regarde. Ah bon, ben voilà, ben c'est ça la pensée qui vient de m'arriver maintenant. À la place de penser, je suis ma pensée. Mais on voit la pensée comme si c'était un acte quelconque. Je veux ça, je crois ça, tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai pensé à ça maintenant? Le seul fait, en fait, de poser des pourquoi, c'est-à-dire de commencer à jouer avec la capacité réflexive de l'esprit. C'est-à-dire ne pas laisser l'esprit simplement qui avance lui-même, encore comme une sorte d'attelage sans maître, mais dire... Et maintenant, il veut aller où? Et pourquoi il veut aller là? Le fait de poser un certain nombre de questions, il n'y a pas toujours de réponse à loin de là, hein. Mais le fait de poser les questions fait qu'au fur et à mesure, il y a une libération vis-à-vis de cette capacité automatique qui peut se produire. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système des 12 liens causaux est quelque chose vraiment sur lequel, quand on fait du bouddhisme, on peut réfléchir pendant longtemps. Hein. On n'a pas on n'a pas la vérité immédiate. Hein. C'est un truc qu'on peut y revenir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Il y a toujours quelque chose dedans qui est riche. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Le but, c'est pour ça que je disais qu'on est avec ça dans une sorte de gymnastique mentale, de gymnastique spirituelle. Le but, c'est pas de dire, hop là, je connais tout ça, les 12, je peux vous les réciter l'un après l'autre, et donc maintenant, on passe à autre chose. C'est pas du tout le but. C'est que, en fait, on va voir qu'avec ça, il y a tout un jeu mental que l'on peut opérer et qui fortifie le mental. Dans certains mouvements bouddhistes, à propos de ça, on parle de méditation. Personnellement, bon, chacun utilise le vocabulaire qu'il veut, hein, c'est pas un problème, mais j'aime pas énormément le terme de méditation, parce qu'on a l'impression d'un sujet qui s'abstrait complètement des choses et dont la pensée part de, dans des régions extrêmement hautes et très personnelles. Alors que là, en fait, je pense qu'on a davantage une sorte de gymnastique du mental, une gymnastique spirituelle qui est faisable avec ça. Si on apprend uniquement pour l'apprendre, alors effectivement, c'est ce qu'on fait dans un premier temps, parce que cette gymnastique, je ne vais pas pouvoir la faire si déjà je ne connais pas les 12, qui m'en manque 4 à chaque fois quand j'y réfléchis ou quelque chose comme ça. Donc au début, il y a effectivement une part qu'on pourrait dire un petit peu scolaire qui permet de maîtriser un peu la chose. C'est-à-dire comme quand on apprend la musique, bon ben il faut apprendre, il y a 7 notes et il y a un certain nombre de demi-tons. C'est-à-dire si je fais pas ça, je veux dire c'est quand même délicat quoi, ou alors il faut tout faire d'instinct. Mais une fois, entre le moment où on a fait ça, et le moment où, lorsqu'on entend, on arrive à distinguer les notes que c'est, les accords que c'est, ou même à composer soi-même et tout, on voit qu'il y a une façon d'opérer et de maîtriser un peu des choses qui commencent à s'effectuer. Et avec ce système, c'est pareil. C'est-à-dire que dans un premier temps, le but est peut-être de le savoir d'une manière, je dirais, un petit peu scolaire, c'est-à-dire d'amasser de la connaissance, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est de nous qu'il s'agit. Je ne suis pas en train d'étudier un animal bizarre qui s'appelle l'être humain, mais moi je suis constitué d'obscur, je suis constitué d'agissement, du coup ça me donne de la conscience, etc. Il faut rapporter ça à sa propre vie. Et à partir de là, commencer à jouer avec ça. Alors le but, comme on l'a vu, c'est de s'entraîner à atténuer l'obscur. Atténuer l'obscur, en fait, vous vous rappelez qu'on avait fait les 4 vérités. La dernière d'entre elles, qui était la vérité de la voix, c'est-à-dire comment, une fois que, donc la première c'est la souffrance, la deuxième c'est ce qui cause la souffrance, c'est-à-dire ce qui crée l'apparition de la souffrance, la troisième c'est ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire ce vers quoi on veut aller, et la quatrième c'est comment y aller. Et donc comment y aller, on avait dit que c'était l'octuple sentier, c'est-à-dire les 8 voies. Et la première d'entre elles était la vue juste, la vue correcte. Et en fait, se forcer à développer vis-à-vis des choses de la lucidité, de la vigilance, entraîne le renforcement de la vue correcte. Ce renforcement de la vue correcte est ce qui atténue l'obscur. Tant que je suis dans un processus où je ne réagis que par des passions, il y a ça qui se passe, hop là, bon, il faut que j'ai une réaction immédiate. Vous voyez, c'est une espèce de chose où on est un peu toujours dans quelque chose du tac au tac. Comme au billard, quoi, la bille est lancée, immédiatement elle rebondit dans différents endroits. Tant que je suis là-dedans, il y a un processus qui me détruit. Parce que, même si j'ai l'impression d'être agissant, je suis toujours mu par ce qui arrive, par le fait qu'il faut que je suis toujours réactif et pas actif. Alors que dès le moment où on commence à développer de la vue juste, à dire tiens, ça c'est intéressant, développer davantage de lucidité, davantage d'éveil, davantage de vigilance vis-à-vis des choses. Dès le moment où je développe ça, du coup, il y a moins d'obscur. Je comprends mieux le monde, je vois davantage ce qui se passe. Et donc c'est tout un entraînement qui vise à, au fur et à mesure, accroître cette vue juste. Alors je me suis dit que je vais essayer dans la littérature bouddhique de vous trouver une petite histoire ou quelque chose quand même à raconter, parce que quand on parle exercer la vue juste, ça semble quand même un exercice un peu spartiate et assez bizarre, et on fait comment? Alors, j'ai trouvé quelque chose qui était lié dans un texte à la vie du Bouddha et donc aux différentes personnes qu'il a rencontrées. Comme je vous l'avais dit, qu'on avait étudié la vie du Bouddha, donc qui s'appelait Shakyamuni, le sage du clan des Shakya, il a été pendant une grande partie de sa vie une sorte d'itinérant. Il se déplaçait avec quelques disciples et il a parcouru des distances considérables. Et donc, il faut bien se le représenter comme arrivant dans un village, un petit village de l'Inde du 6e siècle avant Jésus-Christ, dans un petit village, où finalement les gens, il ne devait pas y avoir énormément d'attractions qui passaient dans le village, et il avait quand même de son vivant eu la réputation d'être un très grand sage. Et donc pour les gens, c'était vraiment une occasion de le rencontrer, et puis chacun est porteur d'une question. Et en l'occurrence, donc je vais vous dire le petit texte que j'ai trouvé, où là, on va voir qu'il rencontre, il y a un homme qui vient le voir dans un village où il vient d'arriver, qui est un homme qui est extrêmement âgé, qui arrive à la fin de sa vie, et donc qui vient voir le Bouddha. Un vieillard infirme et sur le point de mourir vint à lui en disant « La fin de mes jours est arrivée, je suis malade, je souffre beaucoup. Je viens voir si vous pouvez me donner santé et courage. Ce sera un bienfait pour moi et ça me permettra de prolonger un peu ma vie. » Le maître, en souriant, lui répondit « Vénérable père, je vois que votre corps est faible et fatigué. Il serait déraisonnable de demander la santé. » D'autant plus que vous n'en jouiriez que quelques jours. Ce que vous devez faire, c'est vous dire ceci. Quoique mon corps soit malade, jamais mon esprit ne le sera. Voilà mon salut. Le vieillard se leva. Il semblait plus jeune et marchait sans bâton. Il salua le Bouddha et s'éloigna. Quelques disciples, en le voyant passer, parce qu'il l'avait vu arriver au début vraiment dans un état extrêmement fatigué et décrépit, donc quelques disciples, en le voyant passer, remarquèrent un autre miracle du maître. Le Bouddha objecta. C'est le miracle de la foi. Beaucoup d'hommes meurent pour ne pas croire en eux-mêmes. Ah, c'est une très belle histoire. Enfin, moi, je trouve. Je ne sais pas si c'est vraiment passé, mais c'est une très belle histoire. Alors, il y a un certain nombre de choses à dire dessus. La première, c'est que le Bouddha n'est pas un faiseur de miracles. Pour les miracles, normalement, il faut aller ailleurs. Parce que, effectivement, le vieil homme malade qui vient le voir, le gars il souffre, il est malade, il est usé, il demande un miracle, quelque part, un salut. Il ne va pas en avoir, mais pourtant il repartira en meilleur état qu'il est arrivé. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une forme de... La preuve, les disciples, hein, bon, alors souvent les disciples, quand même, quand ils apparaissent dans le bouddhisme, c'est les gars qui ne comprennent pas grand-chose, hein, dans beaucoup de cas. C'est malheureux, mais peut-être le propre du disciple... Pas toujours, mais dans beaucoup de cas, c'est un peu ça. Les autres disent encore un autre miracle du maître. Donc, le Bouddha, il leur dit non, il dit c'est le miracle, non pas du maître, mais c'est le miracle de la foi. Alors attention, et c'est la foi en quoi? Parce que je parlais un petit peu justement de la foi dans le bouddhisme, et il dit les hommes meurent quand ils ne croient plus en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a dit à l'homme qui est venu le voir, déjà, une chose qui me paraît importante, c'est qu'il lui parle. Bien que ce soit lui, le Bouddha, le maître, tout ce qu'on veut, il lui parle avec beaucoup de respect, je trouve. Parce qu'il va lui dire des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais je trouve que la manière dont il va le dire, c'est très très bien dit, il lui parle avec beaucoup de, non seulement de respect, mais je dirais presque d'amour, entre guillemets. Déjà, il l'appelle, bon, c'est peut-être une manière aussi de parler de l'époque, mais il l'appelle Vénérable Père. C'est-à-dire que l'homme est respectable. Il l'appelle Père parce que l'homme est plus âgé que lui, hein. Mais il prend l'homme déjà, cet homme est respectable. Il n'est pas une sorte de, je ne sais pas quoi, de gourou qui arrive comme ça, les filles posent toutes les questions que vous voudrez, moi j'y répondrai. Il laisse l'homme venir à lui, et puis il l'appelle Vénérable Père. Lui, le Bouddha, il a quand même développé l'attention, la vigilance, la lucidité. Parce que donc il voit juste la personne, et dit, je vois que votre corps est faible et qu'il est fatigué. C'est-à-dire qu'avant que l'autre ne parle, il a observé la personne, et... Il y a déjà des choses essentielles en quelque sorte qu'il a compris. Et lui dit, il serait déraisonnable de demander la santé. L'autre, en fait, c'est ce pourquoi il était venu. Hein. D'autant plus que vous n'en jouiriez que quelques jours. Ce que vous devez faire, c'est vous dire ceci. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui donner une sorte de, je sais pas comment dire, de médicament, de quelque ordre que ce soit, mais il va développer quelque chose en lui, mais à partir des forces de cet homme. Et donc, quoi que mon corps soit malade, jamais mon esprit ne le sera. C'est-à-dire que là, on est effectivement, il crée une cause dans le présent. Tant qu'il se disait, je suis malade, j'ai mal ici, j'ai mal là, oh là là, la fin est proche, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Là, on était dans les effets du présent qui étaient liés à des causes du passé. Et donc là, on était en phase de déterminisme, où la personne, il constate ce qui se passe dans le présent, et il en souffre, et voilà tout. Par contre, là, le Bouddha va lui demander de produire une pensée, de produire une volonté. Et une volonté qui est quelque chose qui est déjà beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire qu'il va dire, mon corps est malade, mais là c'est vraiment la prise de décision, mais mon esprit il ne le sera pas. Quoi qu'il arrive, je serai pas vaincu. Donc c'est une méchante pensée hein, à produire. Hein. Mais si produit cette pensée, quelque part, il l'a déjà gagné. Hein. Et donc, les gens le voient après, parce que bon, les disciples, ils n'ont peut-être pas assisté complètement à l'entretien, et puis ils voient le vieillard qui ressort complètement gaillard de cette affaire-là, et ils disent, allez, encore un miracle pour le maître. Et lui, il leur dit, ben non, en fait, c'est le miracle de la foi, parce que les hommes, quand ils meurent, c'est qu'ils ne croient plus en eux-mêmes. Alors, du point de vue du bouddhisme, c'est qu'on est toujours en train d'énombrer les choses, il existe trois sortes de biens. Ce sont les biens spirituels, les biens, je crois qu'on peut dire, corporels, les biens physiques, les biens du corps, et les biens matériels. Alors le bouddhisme ne dénigre aucun de ces biens-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir un esprit bien exercé, c'est une forme de bien, c'est ce que je veux dire, en fait, je sais pas comment dire, de vertu. Le fait d'avoir un corps en bonne santé, c'est une autre forme de bien. Et le fait de posséder des belles choses, par exemple, c'est également une forme de bien. Mais le bouddhisme ne dénigre aucune de ces choses. Hein. Il ne dit pas ne posséder plus rien ou ayez le corps qui en mauvais état, il faudrait voir des austérités pas possibles ou quoi que ce soit. Mais la hiérarchie est celle-là. C'est-à-dire en premier les biens spirituels, ensuite les biens physiques, les biens corporels, et ensuite les biens matériels. Dès que la hiérarchie est inversée, mettons, je mets en premier les biens physiques, donc peu importe que je ne développe pas l'esprit, mais je veux développer des gros muscles, hein, ou quoi que ce soit, ou je mets en premier les biens matériels, hein, c'est-à-dire peu importe le fait que je ne développe pas l'esprit, que je laisse mon corps aller sans avoir de respect pour mon corps, mais je veux davantage d'objets, ou des objets plus chers, ou quoi que ce soit. Dès le moment où j'inverse la priorité entre différents biens, je crée quelque chose qui est donc très difficile à supporter. Et donc, là, en fait, c'est ce que le Bouddha lui dit. Bon, le gars, il n'est plus à s'occuper des biens, on pourrait dire, purement matériels, mais il était venu le voir pour son corps. Et il dit, quoi que mon corps soit malade, jamais mon esprit ne le sera. C'est-à-dire, ok, même si je perds au niveau des, on pourrait dire, des biens physiques, je n'accepte pas de perdre au niveau des biens spirituels. On voit que le fait d'établir une décision, le fait de faire qu'il y ait un jeu assez fort, hein, qui s'exprime, non pas un jeu simplement souffrant, réactif à des choses qui sont déjà arrivées, mais qui dit « maintenant je souhaite que ce soit comme ça ». Immédiatement, ça crée une autre condition de vie pour cette personne. Et donc les personnes qu'il avait vues arriver souffreteux, etc., le voient repartir davantage gaillard. Donc en fait, le Bouddha lui demande qu'il prenne la décision de spirituellement ne pas être vaincu. Et en fait, au bout du compte, c'est là que se jouent, dans le pire des cas, les choses. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, parce qu'on peut avoir vraiment dans la vie hein, des désagréments de toutes sortes, des épreuves terribles. Si je dis que, ok, alors c'est peut-être plus facile à dire souvent à faire, mais spirituellement je ne serai pas vaincu, hein, bon, c'est tout. La personne qui prend cette décision, même s'il ne sait pas comment il fera pour ne pas être vaincu, parce qu'il y a quand même des épreuves dans la vie qui nous assomment, hein. Même si la personne ne sait pas comment elle fera pour ne pas être vaincue, s'il y a cette décision, il est déjà un peu préparé et il a beaucoup plus de chances de ne pas être vaincu. Et dans le fait de ne pas être vaincu spirituellement, il y a un challenge qui est le plus important de la vie. Parce que la personne qui est vaincue spirituellement, bon, je ne sais pas si tu deviens dépressif ou de ça, mais il est cuit. Que les choses aillent bien ou que les choses aillent mal, il est déjà complètement cuit. Alors que la personne qui décide de ne pas être vaincue, c'est quelque chose qui est fondamental. Là, effectivement, ça paraît dans un cas un peu, comment dirais-je, théâtral, avec le vieillard qui vient le voir et tout ça, mais il n'y a pas d'âge hein, pour être vaincu. Hein. Mais donc, il lui donne le conseil. Et alors, la dernière chose dont je veux parler un petit peu aussi dans cette affaire avec le Bouddha donc, qui rencontre ce vieil homme, c'est l'emploi du mot « foi ». Parce que quand même, il dit « c'est le miracle de la foi ». Donc là, on croirait presque, chose qui est peu courante dans le bouddhisme, qui est revenu à une sorte de contexte au niveau des mots extrêmement religieux. Or, vous avez vu quand même que beaucoup de choses dont je vous parle depuis le début de ces sessions, on n'est pas tellement dans le vocabulaire du monde religieux. Et là, pourtant, on y revient en plein, Il dit, c'est le miracle de la foi. Bon, après, il explique quand même d'une manière en disant, beaucoup d'hommes meurent pour ne pas croire en eux-mêmes. Donc là, c'est pas la foi dans un Dieu ou quoi que ce soit. Mais donc, je voudrais parler un petit peu de la notion de foi dans le bouddhisme, qui est quelque chose qui est important, hein, parce que parmi les trois biens dont je vous ai parlé, donc les biens spirituels, corporels et matériels, la foi est le bien spirituel par excellence. Alors la notion de foi que l'on trouve dans le bouddhisme n'est pas la foi dans une divinité, la foi dans l'avenir, ou la foi un peu comme on l'entend sur un monde religieux. Le terme à l'origine, en chinois, c'est xin, qui se dit xin en japonais. Donc on décompose le terme. Alors c'est un terme qui est très ancien, et la foi est l'une des cinq vertus essentielles du confucianisme. Donc même en Chine, avant le bouddhisme. Alors ne me demandez pas mes quatre autres, parce que je ne m'en rappellerai pas dans l'instant, je prends peut-être deux ou trois dans la déroute, mais pas plus. Et donc, souvent quand dans les textes confucéens, quand ils sont traduits en français, ce caractère donc, qui signifie la croire, hein, parce qu'à la base c'est un verbe, donc c'est le verbe croire, souvent quand c'est traduit en français, on le traduit parfois par loyauté, parfois par sincérité même. Donc on voit que ça pose un problème au traducteur et qu'il essaye de s'en sortir en restituant le sens du terme au-delà de son acception première. Quand on le décompose, il est formé de deux parties. La première qui est ce qu'on appelle la clé, qui est ça, donc c'est cette partie-ci, et la deuxième qui est cette partie-là. Ça, c'est un caractère, je crois qu'on a déjà vu, mais quand il est tout seul, c'est comme ça, et qui signifie l'homme. Ça représente, d'une manière un peu graphique, un homme qui marche à grands pas. D'accord ? Et c'est une idée qui est assez belle, en fait. C'est-à-dire que la manière dont on représente un homme, c'est quelque chose qui va. Enfin, c'est quelqu'un qui va. Et donc là, on voit un peu la silhouette humaine, et puis là, ce sont les deux jambes.
Oui, c'est beau.
Oui. Et par exemple, alors bon, là, je sais un peu partout de mon sujet, mais par exemple, un adulte ou un homme grand, c'est quelque chose qu'on pense comme ça, donc c'est à peu près la même chose, mais on lui met les bras étendus aussi. Et bon, non, c'est pas mon sujet, mais donc la racine, c'est l'homme. D'accord ? C'est que pour parler de ce caractère foi, on est dans le registre des choses qui sont liées à l'homme. Cette chose-là, donc, qui est la partie ici que l'on voit à droite du caractère, ça signifie la parole. On voit d'ailleurs la bouche et en sorte une sorte d'émission sonore qui partirait de la bouche. Ce carré comme ça, c'est la bouche. C'est entendu presque la bouche, peut-être pas qui crie, mais enfin au moins qui profère quelque chose. La bouche ouverte, la bouche qui dit. Et donc, la foi, ce serait, à partir de définitions anciennes des confucéens, ce serait la parole de l'homme. Donc vous voyez qu'on est dans un registre, mais là du coup, ce n'est pas tellement le registre religieux. Par exemple, le terme croyant, ou même en français, ou même crédit, enfin bon, qui n'a pas... je ne parle pas du crédit financier, mais par exemple, accorder du crédit à ce que dit quelqu'un. On est à peu près dans ce registre-là. Alors, pourquoi la foi qui serait la parole de l'homme? Donc là, on revient qu'on est dans un registre peut-être religieux, mais qui n'est pas de liaison avec une divinité. C'est-à-dire que dans le bouddhisme, on ne dit pas aux gens, voilà, il y a tel dieu ou tel ensemble de dieux qui ont telle et telle caractéristique, et donc maintenant, il faut que vous croyiez dans ce que je dis, ou dans ce que ces dieux ont dit, ou peut-être que ça a été consigné dans un livre, ou quelque chose comme ça, même si, comment dirais-je, vous n'avez aucune preuve de cette chose-là, ou même si c'est quelque chose à quoi vous n'accédez pas immédiatement. Dans le bouddhisme, on n'est pas dans ce genre de, comment dirais-je, de problématique, en ce sens, où on ne demande pas, par exemple, aux gens de croire qu'on a bougé un poteau, mais on pense que quelqu'un qui réfléchit et à qui on montre le système, à un moment donné, peut dire « Oui, a priori, ça semble fonctionner comme ça. » S'il dit « Oui, ça semble fonctionner comme ça », c'est qu'il a accordé du crédit à la parole de quelqu'un qui lui a montré ce système. Alors pourquoi ce caractère de la foi, justement, à commencer par le confucianisme dans le bouddhisme, est très important? Parce que, à la base, on fait partie, c'est un caractère qui est du confucianisme. Dans le confucianisme, on envisage, ce qui n'est pas le cas dans le bouddhisme, mais toujours la vie comme étant la vie en société, et la vie à travers un certain nombre de rapports et d'obligations qui nous lient aux autres hommes. Déjà dans la famille, vis-à-vis du, je sais pas comment on peut dire, du seigneur, à l'époque, on était peut-être de type féodal, on est fixé avec l'avant Jésus-Christ en Chine, et donc le confucianisme vise dans un premier temps à dire quels sont les rapports qui doivent exister entre un frère aîné, un frère cadet, entre un mari et une femme, entre un père et un fils, etc. Et donc on dit si ces rapports déjà sont normalisés dans un bon sens, peuvent être harmonieux parce qu'ils ont telle et telle caractéristique. On se comporte pas avec un père comme on se comporte avec une sœur, ou comme on se comporte, etc., etc. Dès lors que ces relations entre les personnes peuvent être normalisées et harmonieuses, le rôle du sage est en même temps de définir ces relations. Parce que si on laisse tout le monde improviser, donc ça c'est compliqué, hein, si on laisse tout le monde improviser, quels vont être les rapports qui vont nous lier avec mon seigneur, si je vis dans une sorte de fief, avec ma mère, avec mes frères, etc. et tout, ben pour certaines personnes ça se passera bien, et pour d'autres ça se passera de manière assez beaucoup moins bien. Et donc il faut, dans le confucianisme, c'est important de dire qu'est-ce que c'est qu'un père, qu'est-ce que c'est qu'un époux, qu'est-ce que c'est qu'un seigneur, qu'est-ce que c'est qu'un sujet. C'est quelque chose qui est important. Et on dit, cet ensemble de relations ne peut exister que s'il y a une relation de confiance entre les personnes. Et cette relation de confiance ne peut se baser que sur la parole des hommes. Si jamais ça ne marche pas, c'est-à-dire si les hommes manquent à leur parole dans ces relations fondamentales, tout va très très mal. Et c'est pour ça, par exemple, que Confucius disait toujours, il faut attacher l'importance aux mots et aux définitions des mots. Enfin, des mots importants, hein, j'entends. Parce que il faut qu'on parle de la même chose. Si moi, dans un mot, je mets un sens que vous en mettez un autre, hein, on ne va pas du tout s'entendre, hein, au propre que vous figurez. Et par exemple, là je sors un petit peu de mon sujet, mais c'est à Confucius à qui on avait demandé qu'est-ce qu'il ferait, parce que toute sa vie il a essayé de devenir une sorte de conseiller de prince important. Alors, en fait, il a tout loupé, lui, dans ça. Il a tout raté, mais enfin, il a quand même laissé, il a dit comment il fallait faire. Et il dit, la première chose que je ferais, moi, si j'étais Premier ministre, il dit, je respecterais au mot leur sens. C'est qu'on emploie des mots avec le sens qu'ils ont réellement. Et il disait, pas ça en tant que linguiste du tout. Hein. C'est pas du tout le but. Hein. Il dit, si les hommes... Donc la foi, c'est ça. C'est le fait qu'on puisse se fier, donc c'est la même origine que le mot foi, à la parole d'un homme. C'est-à-dire que des hommes puissent être dignes de leur parole. Si les hommes ne sont plus dignes de leur parole, il n'y a plus de société. Il dit, moi je mens comme je veux, en plus c'est pour rouler les gens. D'accord, c'est très bien, mais dans ce cas, il n'y a plus de relations qui sont possibles. Là, on dirait vraiment que c'est très bien une jungle. Là, on est tous ennemis les uns des autres, et on est chacun armé comme on peut vis-à-vis des autres. Oui, alors il faudrait qu'il y ait le retour de la sage de Confucius, je pense.
Non, mais dans les
petites villes,
dans le travail, au sens, c'est la parole des plus.
Oui. Oui, donc il n'y a plus de parole, bon, mais il faut des écrits pour davantage border les choses, mais même dans les écrits, on emploie des mots, même si c'est des mots écrits, et si on ne met pas tous la même chose, on va chacun essayer de voir comment on peut tirer la couverture à soi, quoi. Et en fait, hein, si on arrive déjà à un tel échange au niveau souvent des paroles, on ne peut plus avoir confiance dans la parole d'autrui, c'est que la personne vis-à-vis du rôle qui est le sien, il ne l'assume pas. Pas du travail, par exemple, si je suis chef de service, chef de bureau ou n'importe quoi, et bien si je ne me comporte pas en tant que chef de bureau, il n'y aura pas de foi parmi les gens qui travaillent avec moi, ni les gens qui sont au-dessus, ni les gens qui sont en dessous. Que chacun se comporte, alors c'est pas facile, hein, mais il faut qu'il y ait une dans le cas du confucianisme, bon, enfin, c'est un peu de notre sujet, mais il faut qu'il y ait un effort des personnes pour se conformer à ce qu'ils sont censés être. Ça semble très conservateur hein, quand on dit comme ça. Oui, oui, ben, ça c'est, on peut dire que c'est la dimension, chez eux, c'est la dimension essentielle.
Mais c'est aussi vital dans la famille.
Bien sûr.
Entre les parents et les enfants.
Oui, entre les parents et les enfants, entre les différents frères et sœurs.
Oui, c'est assez, c'est une bonne chose.
C'est plus que du bon sens, hein, parce que le bon sens, c'est quand même un peu la sauce qui permet de lier les choses et qui entre et qui fait que ce que je désire, ben, il y a différents moyens qui me fait que finalement ben, ça devrait me revenir à moi. Quoi. Souvent pour beaucoup de gens, une partie du bon sens, c'est ça. Alors, enfin, je caricature peut-être un peu, mais souvent, le bon sens passe pas toujours par des obligations, j'ai l'impression. Le bon sens, parfois, passe par la facilité. Enfin bon. Par la facilité, par différentes choses. Ben pour revenir donc à notre affaire, le miracle de la foi, tel qu'il le dit, donc là, on voit que ça a complètement un autre sens que le sens une sorte religieux que l'on pourrait être porté à donner pour cette chose-là. Et donc, c'est quelque chose qui est très important, parce que finalement, la foi qu'il lui donne, en fait, c'est la foi en lui-même. Et cet homme, le vieillard qui était venu voir le Bouddha, avait perdu la foi. Non pas la foi dans un système religieux ou un autre, donc il ne dit pas bah, tirer au temple quatre fois plus chaque jour, mais bien il dit, il va falloir que tu aies la foi dans toi-même et que tu t'identifies toi comme étant l'homme qui ne sera pas vaincu. S'il arrive à faire ça, il a gagné. Et a priori, vu que cette personne est un homme qui arrive, comment dirais-je, à la fin de sa vie, donc là, c'est vraiment le dernier combat. Et s'il décide, avant le dernier combat, de ne pas être vaincu, il repart dans un état qui est nettement meilleur. Alors, pour terminer un petit peu avec les 12 liens causaux, je voulais vous montrer quelque chose, justement, comme exercice que l'on pratique...
En Asie, une fois qu'on les connaît, j'avais dessiné ça sur le tableau avant notre rencontre, c'est que jusqu'à maintenant, je vous en ai toujours parlé comme étant quelque chose où le premier terme entraîne le deuxième, le troisième, etc. C'est la manière, je dirais, normale d'apprendre ça parce que c'est la manière la plus pédagogique. Mais on a vu également auparavant qu'en fait on est dans un continuum temporel et qui fait que ce qui était du futur va devenir du présent et que ce présent qui était lui-même du futur va devenir du passé. Et donc on est dans un cycle, alors j'ai représenté, j'ai surprendu le temps sous la forme d'une, un peu d'une horloge, hein, où en fait les choses se déplacent comme ça. On peut décider, alors c'est vrai que la manière tout à fait normale de présenter, vise à commencer par le premier terme, l'obscur. Mais si vous voulez, on peut commencer, et vous allez voir que ça devient complètement différent dès lors qu'on le commence à un autre terme. Et là, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une forme de, comment dirais-je, de gymnastique spirituelle, parce que le propre de la gymnastique, c'est qu'à un moment donné, on bouge les choses, pas dans l'ordre où elles bougent normalement. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, je peux dire que je commence ici. Et donc, on va faire tout le cycle comme ça. Donc, je dis que je commence à la conscience. Donc, c'est nommé. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un premier terme. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, le premier terme est une forme d'arbitraire. Parce qu'on a quelque chose qui est cyclique. Mais je ne peux pas l'expliquer en disant, eh bien, c'est cyclique et ça bouge tout le temps. À un moment donné, je suis obligé de ficher la chose pour l'expliquer. Mais la chose, c'est un système qui est agissant. Je commencerai par exemple au troisième terme. Donc les deux premiers n'existent pas, d'accord. Je vais la trouver à la fin finalement. Eh bien, il y a de la conscience, donc c'est maintenant, c'est dans le présent comme ça. Je suis conscient, et ben, je suis conscient de quoi ben, il y a le monde autour, je vois des choses, j'entends des sons, j'ai une perception de mon propre corps, etc. Donc au fur et à mesure, j'ai tout le cycle perceptif qui va se faire, donc comme on l'a vu bien en étage, du contact avec les choses que je, qui existent, par la cause du bien et la conscience, je vais m'attacher à des choses, ensuite de quoi je vais pouvoir m'approprier des choses, du coup je vais exister, du coup la vie pour moi va continuer, du coup ben, cette vie se terminera, il y aura ma mort, et du coup il y aura de l'obscur, c'est-à-dire une sorte d'amnésie qui sera cette mort, et ensuite de quoi les choses recommenceront par des actes. Et puis en fait, on est parti encore sur un cycle. On peut faire comme ça l'essai de le commencer à n'importe quel endroit. Je peux commencer au niveau du contact. Voilà, hop, il y a du contact avec des choses, je pars sur les choses, etc. Ou je peux commencer ici, là, n'importe où. En fait, je veux dire, c'est un cycle que l'on peut commencer à n'importe quel endroit. Pour l'expliquer, la manière tout à fait logique de l'expliquer, c'est de commencer par ce point 1. Mais c'est un dessin pédagogique. Mais une fois que c'est expliqué, que la personne s'est davantage appropriée au système, il peut commencer, à titre individuel, à jouer avec, d'une certaine manière, à le mettre dans tous les sens. On peut aussi se livrer à une autre chose. Je prends n'importe lequel de ces termes, je ne sais pas, si vous voulez, hein, peu importe, je ne sais pas, l'attachement, l'appropriation, ce que vous voulez, et je l'enlève. Et je le mets au centre de l'horloge. Et maintenant, ok, ben, on va parler de l'attachement, dans ce terme que j'ai sélectionné, et on va voir comment il joue avec l'appropriation, comment il joue avec l'existence, comment il joue avec la vie, comment il joue avec la mort, etc. Et là, vous allez voir qu'au fur et à mesure, en faisant ça, on devient très adroit dans ce système, mais attention, le but, c'est pas d'arriver à une virtuosité pour rire, mais au fur et à mesure, on a bien vu que c'est un système qui est mécanique, où chaque chose entraîne l'une qui entraîne l'autre, et qui nous lie à une sorte de cycle qui est quand même assez douloureux. Plus vous démontez le système, et moins il est efficace. Alors le but, c'est pas faire des minages, mais le but, c'est qu'au fur et à mesure, si le système devient compris à la place d'être subi, il perd de son efficace. Parce que, dans le bouddhisme, on dit que ce système fonctionne à plein rendement et parfaitement dans ce qu'on appelle le monde du désir. Or, dès le moment où on peut le poser un petit peu à côté, l'examiner, avoir une pensée réflexive dessus, on sort d'une phase purement désirante pour arriver à une phase, je dirais, attentive, ou une phase lucide. Et donc, dès le moment où je joue à ce genre de choses, c'est-à-dire que je prends n'importe quel terme et je le mets au centre, et je regarde le lien qui, et on en trouve un des liens, le lien qu'il a avec tous les autres termes. Et bien, au fur et à mesure, je commence vraiment, parce que tout ça, c'est comme le fonctionnement de l'humain, le fonctionnement du mental. Dès lors que je commence un petit peu à voir quelles sont les associations qui peuvent se créer, ou pas, le système perd de son efficace générale. Et on commence à mieux le cerner. J'ai vu des endroits, alors j'avais essayé de refaire ça avec des bouts de papier, donc là vous voyez, on est au niveau des exercices bouddhistes, dans certains sens, là-bas c'était fait sur des petits morceaux de bambou, c'était assez joli. Après je me suis dit que tout ça j'aurais dû en ramener, ou une bidonne en vrac, hein, pour pas cher, les 12 kozos sous la forme de 12 tablettes, hein. Donc là je l'ai fait, alors je l'ai fait à la fois en français et en chinois, et je crois même en français d'ailleurs là. Et donc voilà, ben, vous partez, vous avez le jeu de domino, et vous avez le mouvement colo. Et déjà, voir comment on le place. Donc essayez déjà, sans modèle, de refaire l'horloge, et puis en plus de commencer à le déplacer, et de voir les liens qu'ils entretiennent entre eux. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, on connaît très très bien ce système, et on se rend compte qu'il y a des correspondances vraiment un peu dans tous les sens. Alors c'est sûr, comment dirais-je, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, mais que la manière normale de l'apprendre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8. Ça fait certain. Et ce genre de jeu que je propose là, c'est une fois qu'on connaît le système. C'est pas dès le début, la personne ne connaît pas, on lui donne le jeu complet, et puis à lui le tour passé, c'est pas possible. Mais, au fur et à mesure, justement, quels sont les liens qui existent entre ces différentes choses. Ou alors, j'en prends juste deux. Je prends juste la conscience et l'attachement. De quelle manière ça peut se lier ? Vous voyez, c'est quelque chose qui est, c'est un exercice personnel. C'est pas des fins philosophiques. C'est-à-dire, dans ma vie, quel est le lien que j'ai spécialement avec l'attachement? Quel est le lien que j'ai avec l'appropriation? Qu'est-ce qui me fait exister? Qu'est-ce qui me poussera à mourir? Quelle est la part de l'obscur qui est en moi? Et en fait, avec ça, je dis, on peut y passer. C'est le système avec lequel oui, on vit avec. Hein. C'est le système avec lequel on vit. Il y a des moments où ça semble, dans la, pour une personne qui a une longue, comment dirais-je, pratique, voisinage avec le bouddhisme, il y a des moments où on est très concerné par ça, et puis ensuite on laisse filer. Enfin, dis-moi, c'est mon cas, je sais pas ce qu'il faut faire, mais pendant quelques années, et puis il y a un moment où ça revient fort aussi. Et donc, il y a avec ça une gymnastique spirituelle à mener qui est extrêmement riche. Parce que tout ça, au bout du compte, ça parle de soi. Et du plus profond de soi. À travers tout un séquencement. Donc je ne sais pas si le, si ça semble, comment dirais-je, possible comme exercice, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, si vous voulez. Et là, bon, on arrive au bout de, comment dirais-je, de notre, de la vue que l'on peut avoir de ces 12 liens causaux. Je crois que ça nous a réunis quand même trois fois, trois sessions. Je pense que maintenant, on a quand même une autre vue qu'au début. Et si vous voulez, bon, on peut en discuter, je peux répondre à vos questions. Je voudrais aussi vous dire que donc pour la prochaine session, qui sera donc la dernière que nous aurons dans ce cycle sur le bouddhisme, je veux bien traiter quelques sujets que vous aurez envie que je traite, hein, que vous pouvez me dire à l'avance, hein, il vaudra mieux pour que ça soit bien préparé. Et en dehors de cela, ce dont je voudrais un peu vous parler, parce que là, on a vu dans tout ce qu'on a vu depuis le début, on a vu la philosophie, la pensée profonde, on pourrait dire, du bouddhisme. Et je voudrais quand même vous faire un petit panorama, avant de terminer, quand même que vous sachiez un peu où on en est, c'est-à-dire des différents mouvements bouddhistes qui existent de par le monde, actuellement, donc qui sont encore vivants, parce que beaucoup de ces écoles, surtout les écoles indiennes, n'existent plus, ou ont une existence qui est extrêmement limitée. Mais donc les mouvements qui existent à l'heure actuelle, et dans quoi, à l'intérieur de ces mouvements, que je survolerai, hein, je ne pourrais pas m'attarder sur chacun d'entre eux pendant trois quarts d'heure, parce qu'il y a quand même, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'écoles, enfin du moins de grands courants, et en quelque sorte, pour chacun de ces courants, qu'est-ce qui est important? Et en quoi consistent les pratiques qui sont les leurs? À quoi se livrent ces gens-là? Et qu'est-ce qu'ils croient? Et vous verrez que là, il y a quand même une diversité, un panorama global du bouddhisme. Vous l'aviez évoqué un petit peu la fois dernière, on a vu la première grosse distinction entre petits et grands véhicules. Et on verra que donc dans le courant qui est à l'heure actuelle est majoritaire, est devenu majoritaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le grand véhicule, il y a des mouvements quand même très très différents. Et on verra un peu quelle est l'origine. Bon, ce sera un peu, peut-être un peu rapide, parce que... Mais ça vous permettra quand même de vous repérer, parce que moi je pense quand même que la perception qu'on a en France est quand même très différente de la perception qu'on peut en avoir en Asie.
Et à
Saint-Mandé. Ok, salut. Mais, donc, je pourrais également traiter, si vous le souhaitez, d'autres sujets que celui-là. Alors, est-ce que... Vinay, de tourne... Oui? Ça permettra de...
Il y a un courant européen. Il y a un courant européen. Il y a des familles. C'est le bouddhisme à garder son authenticité en venant dans nos pays.
Ben, pour l'instant, c'est un peu, à mon avis, c'est le début, si vous voulez. Donc, il y a, comment dirais-je, je pense qu'il y a sans doute un certain nombre de quiproquos. Moi, c'est mon sentiment. Vis-à-vis de l'expérience que l'on a, je crois que ça a mis quand même quelques siècles à ce qu'il y ait une mouture chinoise du bouddhisme. Et pourtant, ils avaient des frontières avec l'Inde qui étaient extrêmement, extrêmement grandes, et il y avait des communications, bon, et terrestres et maritimes, mais une pensée qui arrive
dans un endroit où les gens avaient une autre pensée, ça ne peut pas coïncider. Et par exemple, les premiers, je ne sais pas comment on va appeler ça, des pèlerins ou des missionnaires bouddhistes qui étaient arrivés en Chine, n'arrivaient pas à faire comprendre de quoi ils voulaient parler aux gens. Parce que les gens, tout ce qu'on leur disait, ils disaient, ah bah oui, c'est comme chez nous, nous on a confucianisme, on dit ça, etc. Et ils disaient, oui, nous on dit les mêmes choses, mais on dit les choses avec les mêmes mots, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et dans un premier temps, le bouddhisme, en Chine par exemple, a emprunté le vocabulaire qui venait du taoïsme. Et donc, ça fait que pendant quelques temps, ça a mis quand même au moins 200-300 ans avant qu'il y ait un vocabulaire spécifiquement bouddhiste qui soit forgé. Donc, moi je ne pense pas, par exemple, qu'à l'heure actuelle, il y ait une pensée bouddhique européenne ou française, par exemple. Ça, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Ce que je crois, c'est que peut-être que dans le futur, mais enfin, ça mettra que peut-être quelques générations, je ne sais pas, il y en aura. C'est-à-dire qu'il y a des... Parce que partout où le bouddhisme est arrivé, il n'est pas resté sous la forme qu'il avait précédemment. Le bouddhisme japonais, ce n'est pas exactement le bouddhisme chinois, même s'il y a beaucoup de similitudes. Le bouddhisme chinois, ce n'est pas le bouddhisme indien. C'est-à-dire que à chaque fois, le bouddhisme s'est adapté à ce qu'il y avait eu avant lui. Et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est aussi une doctrine qui n'existe que dans le mental des hommes, et que ce mental est quand même structuré pas de la même manière, suivant l'éducation qu'on a reçue. Et donc, il y a tout un travail d'adaptation. Mais le bouddhisme a de grandes capacités adaptatives, je pense. Oui.
Je trouve que notre vie de tous les jours, dans une société où on fait de la comptabilité, du droit, on est vraiment aux antipodes de tout cela. Parce qu'en plus, on parle beaucoup de douleur, alors que, bon, une personne de mon âge, on peut avoir aussi un temps sans avoir vraiment souffert, parce qu'au niveau de la douleur physique, on a tout ce qu'il faut pour le discuter à cette époque-là. On souffrait beaucoup physiquement, ce qui aujourd'hui,
peut-être.
On peut même appuyer sur
tout. Peut-être.
À notre époque, on a plus de douleur, on a plus de douleur, on peut avoir. On a plus de douleur physique comme on l'avait. Je pense que dans l'extrême-orient, il y a encore beaucoup de gens qui
Moi, je vous confonds beaucoup, oui. En fait, personnellement, j'aimerais que je vous confonds beaucoup. En fait, peut-être que j'ai une manière de voir les choses qui est un peu... Mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Je suis pas là pour comparer la vie et l'Occident, mais je trouve qu'ici, il y a vraiment beaucoup de frustration. Il y a une douleur qui est liée à la frustration qui est énorme, je trouve. Mais ça dépend, je dirais... Parce que moi, je suis très frustré, c'est que... Oui. Mais c'est la plus importante. On a vu tout à l'heure qu'il y avait les biens spirituels, corporels et matériels dans cet ordre-là. Mais on me dit qu'on peut dire les biens, je crois qu'il y a aussi les mots spirituels, magiques, hein, les mots corporels et les mots matériels. Hein.
Mais comme vous semblez dire qu'on est atteint de par soi-même, si on a compris ça, c'est la clé de tout ça.
Oui.
Quelle parole vous avez employée, mais effectivement, une fois qu'on a vraiment compris ça, on peut être très fort.
Oui.
Et comment le comprendre, cela? C'est très facile, ça semble très très facile.
C'est facile à dire qu'à faire en tous les cas, oui.
On est atteint de par soi-même.
Je sais pas. Ça, c'est, attendez, moi j'ai pas dit qu'on était atteint que par soi-même. Non, parce qu'il y a quand même quelque chose. Bon, déjà, le bouddhisme ne croit pas énormément dans le soi-même, dans le soi. Parce qu'on a vu par exemple que dans tout ça, il y a finalement ce qui existe. Nous on dit ce qui existe, c'est l'individu là-dedans, on dit ce qui existe, c'est le système. C'est la mécanicité de la chose. Et je crois que je peux être très content, très fier de moi. Mais en même temps, je suppose et j'espère qu'il y a quand même quelque chose en moi qui me fait réagir à ce qui me semble injuste pour autrui et à ce qui me semble injuste pour beaucoup de personnes. Admettons, on ferait qu'il y ait un système quelconque qui ferait que pour moi, toute personne se tirait bien, quelles que soient les nuisances que ça puisse entraîner pour autrui. D'accord ? Globalement, ben non, ça irait pas bien. Oui. Et même pour moi, ça irait pas bien. J'ai plutôt besoin de croiser des gens.
C'est justement en étant bien soi-même qu'on peut faire du bien autour de soi. On voit toujours les personnes qui sont heureuses, sont en général très bonnes, très bienveillantes, et les personnes malheureuses sont très méchantes et très méchantes. Donc c'est d'abord très bien de pouvoir distancer autour des gens.
Oui. On peut.
Ça se voit dans les familles, ça se voit dans le travail,
oui.
ça se voit dans une ville.
Ouais. Pour revenir à l'histoire du vieil homme qui rencontre le Bouddha, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, le Bouddha lui fait comprendre que ce qui est important, c'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Et donc, il y a le plus important, tant qu'on est dans le. Pour reprendre le premier tableau, là, finalement, jusqu'à la perception, on peut dire qu'il y a une forme de déterminisme qui fonctionne. Alors, si le résultat, c'est de la perception qui est extrêmement agréable, tant mieux pour moi, tant mieux pour celui qui l'éprouve. Le seul problème, c'est que c'est lié à des actes qui sont passés. Et donc, il est en train d'épuiser quelque chose. Ce qui est important, c'est après ce qu'il va créer. Et donc, on est davantage dans quelque chose qui est du domaine... Du point de vue bouddhiste, je crois que ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que l'on est. Ce n'est pas le fait que je sois ceci, cela, heureux, pas heureux, de telle origine, de tel truc, etc. Ce qui est important, c'est dans la seconde qui vient, quel est l'acte que je vais effectuer. Et même si je suis quelqu'un, mettons, qui a beaucoup de capacités, qui fait des choses très bien pour autrui et tout, eh bien, dans le registre qui est le mien, je peux faire un acte un peu mieux ou un acte un peu moins bien. Et donc, on est davantage, et on pense qu'en fait, que l'individu retire finalement comme ce qu'on appelle les biens spirituels, c'est justement vis-à-vis de la qualité des actes et des actes lucides qu'il a effectués. Et donc, contrairement un peu à l'idée d'ailleurs générale qu'on a du bouddhisme sans quoi, ou des religions de la vie, sans quoi c'est une forme de passivité, ça c'est l'aspect méditatif qui donne ça. Mais en fait, je pense que c'est des mouvements vraiment de l'action. Et donc, ce qui est important, c'est pas tellement ce que l'on est. Parce que ça, on pourrait dire que c'est presque de l'acquis. Comment ? Oui. Oui.
Ce qu'on veut dire, c'est que si l'observation de l'âme, c'est un peu le rôle que vous voulez aider, on a le passé avec un certain terminus qu'on a subi.
Oui.
Et il faut agir dans le présent pour créer, pour être à notre création.
Oui, oui.
On évacue dans le présent ou on agit dans le présent compte tenu de ce qu'on a apporté venant du passé.
Oui.
Avec nos épreuves,
nos frustrations.
Et ça, malgré tout, on constate que ça nous conditionne dans le présent aussi.
Tout à fait.
Donc, à un moment donné, il faut déjà effectivement faire le bilan de ce qu'on est à un moment donné, et puis voir comment agit notre mental compte tenu de ce passif.
Oui, Au sens du terme,
il peut être un peu négatif, plus ou moins, etc. Et à ce moment-là, réfléchir comment on va créer notre présent pour les causes du futur, mais probablement en étant obligé ou amené à transformer notre mental. Parce que finalement, la valeur qu'on va attacher à nos actes dépend de notre mental.
Oui.
Et si sur la table, j'ai fait le constat que je vois constamment la bouteille à moitié vide, il y a problème. Parce que je ne vais pas créer dans la joie et je ne vais pas donner la joie. Donc, à un moment donné, il faut que je me mette en pause et dire, bon, à partir de demain matin, il faut que la bouteille. bouteille soit à moitié pleine. Moi, je considère que la bouteille est à moitié pleine. Parce qu'à partir de cette transformation mentale, je pense que je vais réagir différemment à ce bouteille de France, que je n'aurai probablement moins de frustration, que si quelqu'un me fait une réflexion, il dit oui, d'accord, il a tel caractère, mais enfin, je sais quelles sont ses qualités, etc., etc. Et on va reconstruire quelque chose.
Oui.
Là. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Oui. Si on est dans cette habitude de considérer qu'on a la bouteille à moitié vide, tout le monde n'est pas dans le cas de figure, et Dieu merci, et puis on peut l'être face à une situation donnée, et puis le lendemain, dire que tu comprends la bouteille à moitié vide.
Je pense que la liberté qui est la nôtre est très petite. Mais justement, les choses se jouent sur peu de... c'est assez infime.
Dans notre campagne, je parle de tenir compte de notre situation du monde occidental qui se trouve, notamment à Paris, on a une sorte de pression, d'idées noires, de pessimisme, de stress généralisé, qui fait que je veux bien que les gens soient un petit peu plein, j'arrive pas à sortir le bouchon pour... Alors, allumons la petite lumière à chacun d'entre nous, et puis faisons en sorte que la dame qui est là, le monsieur qui est à côté, allume la leur dans la foulée, et puis l'ensemble du groupe, demain matin ou dans 15 jours, on sera toutes des petites lumières, et on aura une action politique sur le reste de notre environnement.
Ce serait l'idéal. Je pense ce que permettent, si vous voulez, ce genre de...
Je crois beaucoup à cette possibilité d'action.
Moi aussi.
À titre individuel.
Oui, tout à fait.
Alors que la majorité des gens considèrent que moi, tout seul, je ne peux rien faire. Ce qui est nécessaire. À partir de là, il est dans le contexte de la vie et à partir de là, comme il ne fait rien, les choses ne changent pas. Donc, commençons par œuvrer et travailler sur nous-mêmes, faisons tout le travail que vous nous avez expliqué, et puis transformons notre mental pour faire en sorte que finalement, le collègue que je critiquais, je vais le valoriser en disant, ce que tu as fait hier, ton idée de dans la réunion d'hier, moi je pas mal.
Mais c'est sûr que bon, suivant les circonstances, il y a beaucoup de choses
à faire.
Mais quand même, je dirais là où je dirais je suis quand même peu d'accord avec ce que vous aviez dit, c'est pas du tout une attaque personnelle, mais enfin, parce que ça peut être moi aussi qui me trompe beaucoup. Moi j'ai quand même l'impression, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de souffrance dans notre société. Vraiment, même le visage, même la manière de... Oui. Alors, c'est pas forcément... Oui, oui. Oui, il y a beaucoup de choses, je dirais, diverses, mais qui fait que les personnes vivent quelque chose de dur. Moi, parce que, voilà, à toute personne, c'est quand même l'impression que j'ai. Donc, je pense, si vous voulez, que la condition humaine est quand même toujours à peu près la même. On a tendance à considérer les gens qui sont d'autres pays ou d'autres époques de l'humanité, ils avaient des problématiques qui sont différentes des nôtres. Mais à chaque fois, on tombe dans des problématiques qui impliquent complètement la personne. Et en fait, ceci, si vous voulez, est agissant, que je sois au Moyen-Âge ou maintenant, que je vive à la campagne ou en ville. Alors, il sera agissant de différentes manières, si vous voulez. Oui. Mais je crois, par exemple, vous me disiez que on a des médicaments contre la douleur, par exemple. Donc, comment ? Oui. Donc, je souffre beaucoup. Au pire, ça va aller jusqu'à la morphine, d'accord. Mais,
tant mieux. Mais en même temps, je veux dire, par exemple, vis-à-vis d'autres, d'autres gens à d'autres époques qui n'ont pas eu ces médicaments, je sais pas, le fait, je me promène en ville, et quand même souvent, l'environnement, d'un point de vue visuel, est moche. Le fait qu'on mette de la publicité, des grands trucs, je sais pas quoi, 4 pneus achetés, vous avez le 5e qui est gratuit, ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est une forme de souffrance, je suis désolé. Je veux dire, de quel droit est-ce que des gens ont pris le champ visuel qui est le mien? Moi, j'aime bien voir, enfin, chacun a son truc, moi, j'aime bien voir des arbres, des jolies montagnes, un beau ciel, etc.
Eh oui, on est bien obligé, justement, d'en faire abstraction.
Mais je ne sais pas, alors, je ne suis pas là pour faire un discours écologique, mais le... Vous voyez, donc, je pense que on calme quelque chose au niveau des effets, et malheureusement, parce qu'on a bien vu qu'en fait, ce qui fait souffrir chacun individuellement, vous rappelez, c'est quelque chose que j'avais expliqué un petit peu, je crois que c'était au début, qu'on avait vu le processus causal. C'est-à-dire que, donc on va revenir à quelque chose qui est assez proche des nucléaires causaux, mais qui est vu d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que la vue qui était celle des actes, ce qu'on appelle le karma, qui ici il a perdu un dans la bagarre quand il est arrivé jusqu'à nous. Donc il y a des actes qui sont effectués par la personne. En fait, ces actes qui sont effectués restent, deviennent des causes qui reste dans l'une des consciences que vous dites, qui distingue différentes consciences, je ne vais pas vous lancer là-dedans maintenant, mais de la personne. Et donc ces causes ne sont que virtuelles. C'est-à-dire que j'ai fait des actes qui ont différentes qualités, qui sont bons, mauvais, ce que vous voudrez. Et donc, il doit y avoir un effet qui doit me revenir, un résultat qui doit me revenir, mais qui pour l'instant ne me revient pas encore, et cet acte reste en moi. Il va y avoir un facteur extérieur qui va déclencher chez moi le fait que cette cause va devenir un effet. C'est-à-dire que le facteur extérieur va jouer comme une sorte de cause seconde. Et on vit les mêmes facteurs extérieurs, si vous voulez, les uns que les autres, mais on n'a pas tous les mêmes actes qui sont en nous. Et donc certaines choses vont déclencher des choses chez moi et rien chez la personne d'à côté. Et donc ce facteur extérieur va faire que les causes que j'ai créées vont devenir des effets pour moi, c'est-à-dire qu'elles vont, comment dirais-je, faire que je sois triste, heureux, enfin, ma vie mentale à moi, d'accord? Ce phénomène, si vous voulez, a été valable à tous ces phénomènes globaux du vivant, du moins dans la vue qu'on a le bouddhisme, il a été valable à toutes les époques. C'était pareil aussi pour l'homme du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, ou comme ce sera pour l'homme du 25e siècle. Et donc, il crée des actes avec certaines choses à l'esprit. L'ensemble des émotions humaines, de la sensibilité humaine, de ce qu'on met dans les actes, quelquefois la technicité des opérations que je traite, il n'y a pas finalement une gamme d'émotions humaines qui soit ouverte à l'infini et qui soit complètement différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 5 siècles. On est toujours mû par les mêmes choses. Par le désintéressement, la jalousie, l'honneur, vous voyez ce que je veux dire? Quand je lis une tragédie classique, même si c'est des hommes d'autres époques où il se passait des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe actuellement et à travers un autre environnement culturel, eh bien je comprends les émotions qui sont les leurs. Donc ces hommes ont créé des actes à leurs époques avec un certain nombre d'émotions humaines qui sont également le... vu que nous aussi on est des hommes. Comment ? Oui, c'est ce que je pense. Et donc, je ne sais pas si je lis Othello de Shakespeare, eh bien, le personnage principal éprouve de la jalousie, une jalousie dévorante. Eh bien, on peut aussi, à notre époque, éprouver, être miné par la jalousie. Et donc, on a un certain nombre de registres d'émotions humaines qui sont liées aux actes et à cette espèce d'enchaînement dans le mental qui est celui de l'homme, et ça je crois que c'est quelque chose qui est éternel. On a tendance à penser que, je ne sais pas moi, les hommes des époques prépassées, je sais pas, préhistoriques, Cro-Magnon, n'importe quoi, s'ils étaient des êtres humains, ils avaient des émotions qui s'exprimaient peut-être de manière diverse,
mais qui sont également les émotions que nous avons nous. La problématique humaine est toujours à peu près la même. Alors, si je fais qu'il y a de la douleur, mettons, physique, qui peut être grandement atténuée, la chose ressortira peut-être à un autre niveau que la douleur physique. Ou alors, pour la personne dont la douleur physique est déjà, a déjà été... parce que vous voyez, la douleur, c'est quelque chose qui est extrêmement peu mesurable, extrêmement peu descriptible à autrui. Oui, parfaitement. Et subjectif, et nerveux, et tout à la fois. Enfin, c'est vraiment toute la machine qui vibre. Peut-être que les gens des époques passées, de par les conditions qui étaient les leurs, étaient habitués, je ne sais pas, de très grandes différences de température. Oui, plus résistant à différentes choses, etc. Déjà, il y a moins de confort. Hein, le gars qui marche tout le temps pieds nus, nous, s'il y a le moindre petit caillou dans la godasse, on en fait un drame. Le gars qui est tout le temps pieds nus, il a l'habitude de... Bon, déjà, il développe une plante des pieds qui est... Oui. Donc, le... Oui.
Vous parliez des
patients. Oui. Oui. Oui.
Ben
oui, c'est bien. Moi, ça me révolte. Oui.
C'est impossible de les enlever. Eh bien, vous les enlevez de notre cerveau. Moi, personnellement, je déteste aussi
être
dans un environnement
avec des panneaux
publicitaires.
Oui, mais si vous demandez... Je ne
sais pas pouvoir les
enlever. Bien sûr. Mais bon...
Je ne sais
pas. Oui. Oui. Non, mais attends, on va rester tous. Moi, ce que je crois, c'est que dans le cas des panneaux publicitaires, c'est juste un exemple, hein, mais en même temps, je veux dire, c'est quand même porté à réfléchir. Bon, ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais de quel droit des hommes peuvent mettre quelque chose dans mon champ visuel et que moi, je ne peux rien mettre dans le leur. De quel droit des hommes peuvent essayer de déclencher...
C'est une critique de la
publicité. Oui, peut-être que finalement, si je pose la question, à la fin, je veux dire, eh bien oui, ces hommes-là ont le droit de faire ça, et c'est très bien qu'ils le fassent. Je pose la question, je n'attends pas la réponse.
Regarder, mais
comment
les jets, moi j'ai l'occasion d'aller avec les jets, quand la publicité interdite, c'était d'une tristesse. Il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas d'invention, il n'y avait pas de... L'image, c'est un peu considéré
comme
gay, il y a tout. Oui. C'est un art, parfois.
Oui.
Et vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez la possibilité de justement vous apporter la bonne parole,
c'est ça
pour vos conférences.
Oui.
Donc vous avez la
possibilité, justement. Ben, moi, je pense, c'est aussi ce que je pense certainement, oui, mais je suis quand même très, très reconnaissant aux personnes qui ont pris du temps, et même pour ça entre beaucoup, pour m'apprendre du bouddhisme, pour me faire voir les choses autrement. J'ai eu la chance, je crois que c'est une expérience qui est pour l'instant encore relativement rare en Occident, et j'espère pouvoir, moi aussi, parce que pour moi c'est des choses extrêmement positives, et donc j'espère aussi pouvoir apporter cette pensée qui est quand même différente de ce que l'on connaît ici, à d'autres personnes, dès lors que ça les intéresse. Parce que je ne souhaite pas imposer quoi que ce soit.
Vous disiez que vous aviez encore beaucoup de
frustration
et que vous
n'étiez
malheureux
pas
à certains moments
malheureux. Oui, mais ce qui est important, alors bon, je ne vais pas me lamenter sur mon propre cas, mais d'un point de vue bouddhique, ce n'est pas du tout ça qui est important. C'est-à-dire, je peux considérer que je suis très malheureux ou pas, ou peu importe, mais ce qui est important, c'est ce que je fais. Non, je peux déjà vous rassurer sur une chose, c'est que par la fréquentation assidue du bouddhisme, je pense qu'on échappe à une grande partie de la... d'une certaine forme de tristesse qui est liée à soi-même.
Je voulais dire qu'il y a des médicaments qui agissent sur le moral.
Oui.
Alors on ne peut pas être déterminé. On ne peut pas être libre par rapport à la détermination si on est soumis à des médicaments comme ça.
Oui.
Ces médicaments-là vous changent la personnalité.
Oui.
C'est vraiment un pis-aller, traiter le moral par la médicament. C'est pas des substances, elles existent depuis des millénaires, 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 des millénaires
Mais tu, je crois pas que le... Attendez, moi j'ai jamais dit que nous étions libres. Je dirais que le, on peut être un peu plus libre. Mais j'ai...
Vous avez dit qu'on était libre en agissant sur le futur.
Alors je me suis peut-être mal exprimé, si vous voulez. Moi ce que je pense c'est que la... Je sais pas comment dire, mais la... La petite frange, la petite portion de liberté qui est la nôtre, est loin d'être absolue. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer assez malin, en fait. Mais je pense qu'on peut influer sur les choses, je dirais un petit peu influer sur les choses, mais c'est un petit peu pour nous a beaucoup de signification. Donc peut-être que du point de vue d'autrui ou dans l'absolu, ça semble être du un petit peu, mais pour nous c'est fondamental. Mais je veux dire, il n'y a pas de, enfin du moins dans l'expérience que chacun de nous a de la vie, il n'y a pas de, je peux comment dire, de liberté absolue. Depuis que tout ce qu'on connaît de la vie est lié à différentes formes de contraintes. Mais à l'intérieur de cette contrainte, il y a quelque chose à jouer. Si vous voulez, c'est comme la partie d'échec. Hein. La partie d'échec, je veux dire, il y a quand même le, je peux comprendre, enfin, l'échiquier, il y a quand même les pièces qui ont un nom, il y a quand même, qui ont une manière de bouger, etc. Et donc tout ça, finalement, c'est un ensemble de contraintes. Mais, s'il n'y a pas ces contraintes, il n'y a pas de partie non plus. Oui. Oui. Oui, oui. Vous voyez quand même que le, de ce dont nous sommes partis, on voit, et vous avez parlé tout à l'heure, c'était une forme de gymnastique du mental. Vous voyez que la gymnastique commence un petit peu à bouger et être opérante. Oui, oui.
J'ai remarqué, vous avez commencé par les attachements.
Oui.
Oui, 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 aussi. Oui. Et vous avez dit que c'était dommage parce que entre nous deux, on ne s'intéressait pas à ce qui était la différence.
Donc, oui, oui. Que il y a beaucoup de choses qu'on ne remarque pas.
Je ne sais pas,
mais ce ne serait pas mauvais de les remarquer davantage parce que finalement ce qui remarque, c'est-à-dire finalement ce qui attire nos désirs ou nos peurs de l'autre côté, c'est-à-dire, en fait, il devrait toujours faire. Oui, oui. Au niveau de la perception, ça parle de la perception. Donc, si vous voulez, vous avez des perceptions qui sont agréables, désagréables et indifférentes. Ce qui est agréable, c'est le désir. C'est que je reveux de ce qui a été agréable pour moi. Même que quand je peux faire différentes choses pour le revouloir, parce que vraiment quand ça arrivera, ça me sera moins agréable. Ce qui a été désagréable, c'est la répulsion ou la peur. Et ce qui est indifférent, c'est une sorte d'inobservation. Et dans le bouddhisme, on dit parfois que ça, c'est trois poisons. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois le désir, la peur, et ça, je peux vous dire, l'hébétude, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, moi, j'en pense rien. Ben, il n'est pas très brillant, c'est qu'il dit pour toute chose, qu'il n'en pense rien, quoi. Mais ça, on dit souvent que c'est trois poisons. Hein. Parce que toujours, il veut autre chose, en fait, il y a des trucs qui lui font peur, et puis le reste, il n'a pas compris. Donc, on dit, vous avez ça, maintenant, simplement poser la question pourquoi, ok, je veux ça à tout prix, pourquoi je le veux. Ça me fait vraiment peur.
C'est différent, c'est des choses qu'on n'aurait pas explorées ou qu'on n'aurait pas connues.
Non.
Et qui finalement pourrait être bénéfique, mais qu'on ne peut
oui.
pas.
Oui, ou qu'il y a quelque chose à comprendre à partir d'elle et qui pour nous pourrait peut-être être ouais. fondamental et depuis ouais. le début. Je recherche ce qui était bien. Et en fait, je pense que dès le début de la vie, hein, les choses se nouent beaucoup là-dessus. Hein, parce qu'il y a des fonctions vitales qui doivent s'accomplir. Pour que ces fonctions vitales s'accomplissent, je sais pas, ça va être l'allaitement, hein, des choses comme ça, dès le début de la vie. Donc, il y a des choses qui semblent tout à fait désirables, bénéfiques. D'autres, à l'inverse, des forces plus mauvaises qui semble la fuir, et puis le reste, on ne voit pas. Et je crois que vis-à-vis une sorte de réflexe, hein, pratiquement, qui sont pris comme ça, ensuite les choses s'acheminent un petit peu toutes seules. Et donc, vis-à-vis de ça, est-ce que c'est très bien ou pas? Mais en tout cas, c'est quelque chose à réfléchir ou à casser là-dedans.
Et donc, la réflexion peut permettre de prendre conscience des choses dont on est en train de réfléchir.
Oui, oui.
Moi, je pense pas qu'on puisse réfléchir seul. C'est par le dialogue et par la
discussion. Oui, oui.
En communauté qu'on avance.
Oui. Mais, oui, alors, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est aussi dans l'expérience simplement de la vie qui est la nôtre, le fait d'exercer l'appareil, je pourrais dire, sensoriel et conscient. Un truc très très bête, hein. Je suis en train de manger, c'est quoi que j'ai dans la bouche à l'heure actuelle? Quel goût ça a? Oui, des choses comme ça, mais développer l'attention, développer la lucidité. Parce que vraiment, tout ce qu'on fait d'une manière mécanique, sans conscience, pourquoi c'est sans conscience? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on développe, là aussi c'est une gymnastique, quand on commence à développer de la conscience, de la lucidité, il y a justement beaucoup de zones qui n'étaient pas visibles, qui deviennent davantage. On ne peut pas dire dans l'instant à quoi ça sert. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je me rends compte qu'entre le fait de, je sais pas, de manger mécaniquement, c'est l'heure, broum broum, les mâchoires se mettent en route et un truc, etc. Et le fait simplement de prendre conscience de ce qu'on a dans la bouche et du goût que ça a vraiment, enfin, d'exercer la sensibilité, il y a complètement une autre différence de, je peux comment dire, d'exercice de la vie, d'exercice du vivant. Et finalement, c'est une sensation qui est beaucoup plus pleine quand on exerce la. Ce qui est le domaine du sensible, du mental, de ça, que quand on vit un peu comme une brute, oui, oui.
Ce sont des petites sensations qui nous permettent de mieux exister.
Oui.
De développer notre capacité.
Oui, les petites et les grandes. Mmh. Oui. Alors donc, bah écoutez, on arrive à la fin. S'il y a des personnes qui ne sont pas là la fois prochaine, éventuellement, laissez-moi votre nom ou un numéro de téléphone ou une adresse ou quelque chose de similaire. Que, si vous voulez que je vous tienne au courant, c'est que vous voulez de ce que ce sera le.
Je ne sais pas du tout si on veut avoir un suivi.
Oui.
Oui. Oui. À quel endroit on peut s'adresser, parce que bon,
oui.
Là, c'est bien, c'est une ouverture.
Oui. Oui. Oui.
Mais moi, ça m'intéresse, pas dire qu'après,
d'accord.
Je vous dis, mais
d'accord.
Donc,
d'accord.
Je vous en remercie,
oui.
D'ailleurs.
Bah,
c'est aussi très intéressant. Voilà.
Bah, écoutez, mais, laissez-moi un numéro de téléphone ou une adresse. Hein. On va distribuer à la dernière partie.
On va voir s'il y a un endroit dans Paris
où
on peut continuer
d'accord.
À des cours.
D'accord.
Je ne sais pas comment ça se passe. Alors,
alors je crois qu'il a enlevé la date, hein. Okay. 1er juin, oui.
Voilà, c'est parfait.
D'accord.
Voilà, et moi c'était une riche idée de venir faire un conférence en quartier.
Avec
tes
jours, j'y habite également.
C'est très difficile quand on a. Ah, vous habitez dans le quartier.
Oui, oui.
Et c'est très difficile en fait quand on n'est pas initié d'essayer de claquer des lectures dans l'air. Mais justement, je vous montre cette première approche pour essayer de comprendre. Personnellement, ce n'est pas la science infuse, mais bon, par contre, c'est vrai que tout ça, ça apporte. Un équilibre et qu'avec l'âge, c'est très utile. Mais bon, moi je crois que je souffre particulièrement, le problème n'est pas là, hein. Mais justement pour essayer de comprendre, c'est une ouverture d'esprit qui est hyper intéressante. J'avais quelqu'un chez moi qui était délivré, moi j'étais vue par une grand-mère, qui était très versée.
Au revoir madame.
C'est-à-dire que nous sommes
quoi.